Tout de suite, voici en direct le Libre Journal de Serge Debeketch. Très bonne soirée. Vous écoutez Radio Courtoisie, il est 18h.
Radio Courtoisie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel
et de la francophonie.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.net. Vous écoutez le Libre Journal de Serge Debeketch, dirigé successivement par Bernard Anthony et par Philippe Christel, diffusé en direct mercredi 25 juillet 2007 de 18h à 21h, en différé jeudi 26 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal est réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 et par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.net.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonsoir. Je suis ce soir avec Jeanne Smith, directeur de présence, Cécile Montmirail et Olivier Fideras. Mais je pense à Serge Debeketch qui m'écoute en ce moment. Je ne l'ai pas vu depuis quelques jours. Nous étions en orange. Nous avons passé de très bons moments dans le cadre de l'heureuse initiative d'Anne Brassier, faire lire sous les arbres. On a connu ça en Normandie, à Bordeaux. Là, c'était sous les oliviers. Et avec Serge, ça a été l'occasion de longs débats, mais je sais qu'il est sur la route des vacances, il va très bien, j'en suis heureux pour lui, mais il est aussi un peu, d'une certaine manière, sur la route du Tour de France, il voudrait dire quelque chose à ce sujet. Serge, est-ce que tu m'entends? Allô, allô. Alors, Serge Debeketch, pour l'instant, ne m'entend probablement pas, nous essayons de le joindre, tout de suite, pour vous dire que nous allons avoir une soirée très chargée, puisque nous allons aborder successivement les thèmes de la griffe, c'est aussi Bernard Anthony, le président de la griffe, qui vous parle. Nous avons donc beaucoup de procès en cours. Allô Serge, es-tu là?
Je suis là.
Ah, voilà.
Comme Mire Miroska.
Eh bien, je suis content de t'entendre, car tu as une voix déjà quasiment reposée. Mais je pense que tu as comme un coup de sang que tu veux faire passer à travers l'antenne aujourd'hui, et nous t'écoutons.
Oh, un coup de sang, c'est beaucoup dire, mais c'est-à-dire que je suis un petit peu fatigué par les leçons de morale que nous assènent les radios-télévisions à propos du Tour de France. Parce que on a un discours, le discours de l'indignation scandalisé, parce que un coureur cycliste a été pris ce matin avec, ou hier plus exactement, avec un fort soupçon de dopage. Alors ça me fait bien rire, parce que d'abord, comme par hasard, c'est toujours le cyclisme qui est accusé, le football, tous les sports dégénérés, on s'en occupe pas, mais le cyclisme qui est un sport de blanc, un sport de solitaire, un sport d'effort, un sport de sacrifice extraordinaire. Alors là, c'est vraiment quelque chose de très très grave et que les gens soient accamés.
Oui, mais tout de même, Serge, est-ce que justement, ça n'est pas pour conserver son idéal au sport qu'il faut, tout de même traquer pour une fois, qu'on nettoie un tout petit peu les écuries, même si on ne le fait pas tellement par ailleurs. Est-ce qu'il faut s'en plaindre? Il faut sans doute ensuite...
Je suis tout à fait d'accord pour qu'on mette de l'ordre dans le sport. Je trouve d'ailleurs dément que des sportifs se dopent, parce que c'est le contraire même de l'objectif du sport, semble-t-il. Enfin, je suis pas très sportif, j'y connais pas grand-chose, mais j'ai l'impression que vraiment, c'est quelque chose qui est totalement antinomique. Mais je répète que le cyclisme n'est pas le seul sport où on se drogue. En revanche, c'est le dernier sport qui soit véritablement franchouillard. C'est-à-dire, le Tour de France, c'est quand même un événement sportif extraordinaire, ou d'abord qui nécessite des sacrifices et des efforts surhumains, d'autre part qui met en évidence une certaine spécificité de certaines ethnies, et ça déplaît beaucoup, et puis c'est un sport de solitaire, alors que maintenant il faut absolument faire des sports d'équipe, et on entend par exemple Georges Frêche se féliciter que l'équipe de, ouvrez les guillemets, France, fermez les guillemets, de football, soit constituée de personnes qui sont pas forcément des sous-chiens, comme dit l'autre.
Dont nous parlerons tout à l'heure, c'est Ouri, voilà. On va parler d'Ouri. Voilà.
Mais il y a encore un autre argument, c'est que les gens s'indignent. Alors, on entend le public s'indigner. C'est, sur les radios, les télévisions, vraiment, les gens sont indignés par le dopage dans le cyclisme. Et cette indignation, elle me fait rigoler de la part d'un peuple qui est un peuple dans sa majorité, Dieu merci, pas dans sa totalité, mais qui est un peuple d'aplaventristes, où les gens, dès qu'ils ont un bobo, un ongle retourné, ils prennent 8 jours d'arrêt de travail, et après, ils s'étonnent que des géants de la route, qui font des centaines de kilomètres avec des efforts démesurés, prennent quelque chose pour tenir le coup, et ils les accusent d'être des tricheurs. Eh ben, je trouve qu'avant de monter au mât de cocagne, il faudrait surveiller son caleçon pour voir s'il n'est pas un peu braineux. D'autre part, on entend des journalistes qui, eux aussi, s'indignent. Or, tout le monde sait que la presse est complètement pourrie par la CAM, que des centaines de journalistes marchent à la cocaïne, comme d'ailleurs les hommes politiques, et ça, on n'en parle jamais.
Voilà une bonne idée, Serge. C'est-à-dire que si on faisait des contrôles chez les hommes politiques, on s'apercevrait d'une certaine contamination du sang, si ton raisonnement.
Évidemment. Je voudrais bien, d'ailleurs, qu'on m'explique comment des hommes politiques peuvent se lever, être présents sur les radios à 7h du matin, tous les jours, pour faire le petit numéro de cirque, alors que le soir, ils se sont couchés à minuit, à 2 ou 3 heures du matin, après avoir tenu des meetings ou tenu des réunions et tout. C'est impossible physiquement. Donc,
oui, mais ils ne cherchent pas le maillot jaune tout de même.
Mais si, bien sûr, à leur manière, c'est aussi le maillot jaune. Et c'est aussi pour le fric, comme les cyclistes et comme tous les sportifs qui font ça pour le fric. Et puis... Pardon. Tout ça... Alors, bien entendu, je répète que je ne défends pas je ne défends pas la drogue, pas du tout. Je sais, j'en ai jamais
fait. Je n'ai
pas commencé à 60 berges. Mais ce qui m'écœure, c'est cette espèce de bonne conscience, d'indignation morale qui ne ressemble à rien, qui est bidon complètement, par des gens qui sont des médiocres, qui font eux-mêmes ce qu'ils reprochent aux autres de faire. Et moi, j'en ai absolument par-dessus la tête, d'entendre à longueur de journée sur les radios, dans les journaux, à la télévision, des ringards, des pourris venir nous donner des leçons de morale. Ça devient absolument intolérable. Et il faudrait quand même que quelqu'un leur ferme leur clapet une fois pour toutes en disant « Vous êtes vous-même ce que vous reprochez aux autres d'être, et les premiers. » Voilà.
Eh bien...
Alors, c'est un curieux moyen de commencer ses vacances, mais je suis là, dans le bocage vendéen, je suis au cœur d'un pays qui a été génocidé par la République. Je signale d'ailleurs que le livre admirable, passionnant, formidable, de Reynald Secher, sur la Chapelle-sur-Mer vient d'être réédité. Et il raconte dans la préface de ce livre comment, quand il a publié son bouquin pour expliquer que le génocide avait été ordonné par la Convention et qu'il a fait des centaines et des milliers de morts, mais sur ordre de la République naissante, quand il a annoncé ça, il a fait l'objet de pressions terribles, de menaces, de promesses, de tentatives de corruption pour ne pas publier la vérité, parce que c'était à la veille du bicentenaire et qu'il fallait surtout pas saloper l'image de cette salope de République. Donc je suis au milieu de ce paysage, et qui est un paysage admirable, à quelques dizaines de mètres d'un haut lieu de la résistance chouane, et je me dis que vraiment ça serait le moment de reprendre les fours tournés, parce que cette République, en 2 siècles, elle a réussi l'exploit formidable d'être chaque jour un peu plus dégueulasse que la veille, alors qu'elle avait commencé très très mal. Il faut reconnaître que ça, c'est vraiment quelque chose qui mérite qu'on salue cet exploit extraordinaire.
Ben voilà, Serge, voilà. De roborative pensée de début de vacances, permet à l'ami que je suis de te conseiller quelques jours sans radio, sans télévision, et avec les beaux livres à l'effet de Reynald Secher, qui a accompli une œuvre de mémoire que nous saluons tous.
Et sans dopage, bien entendu. Amitié Bernard, amitié à tous les
auditeurs. Amitié Serge et amitié à Daniel de Becquetch.
Je vous embrasse à tous.
À bientôt.
Alors Bernard, Bernard Anthony, Serge vient d'évoquer très brièvement l'affaire Georges Frêche, et c'est pour nous l'occasion de débuter peut-être une partie de cette émission sur l'actualité de la griffe, qui est très très riche, et donc des procès que vous avez débutés ou que vous avez lancés ces dernières semaines. Alors tout d'abord, peut-être parlez-nous de cette affaire Frêche, puisque nous avons pu lire dans Présent un communiqué que vous avez écrit pour lancer ce procès.
Oui, et je remercie d'ailleurs Présent de l'avoir publié intégralement, parce que, en l'occurrence, il fallait vraiment le publier intégralement, parce que je pense que chaque mot comptait. C'est une affaire assez hallucinante. On sait ou on ne sait pas qui est Georges Frêche. Il est le tonitruant ancien maire de Montpellier, aujourd'hui président de l'agglomération, président de la région Languedoc-Roussillon. Et on sait, ses amis eux-mêmes, c'est-à-dire les socialistes, qui l'ont d'ailleurs exclu, mais un peu, beaucoup, pas du tout, enfin, c'est selon, dont ils disent, il peut dire n'importe quoi. Alors, effectivement, Georges Frêche a été mis en procès par les harkis, qu'il avait qualifié de sous-homme. Peut-être faudrait-il atténuer cela, parce qu'il avait expliqué ce qu'il entendait par là et quel harki il visait. Ensuite, il a tenu des propos, rappelant, somme toute, ceux de notre ami Serge sur les compositions des équipes sportives. Mais enfin là, en l'occurrence, il était à une réunion intitulée « La journée de Jérusalem » à Montpellier, le 9 juillet dernier. Et là, il a tenu des propos tout à fait étonnants. On peut le voir, d'ailleurs, sur les sites qui reproduisent son allocution très facilement. Bon, peut-être avait-il abusé du rouge de Montpellier. Toujours est-il qu'il se lance là dans une évocation de ses souvenirs à Tibériade, avec quelqu'un, et là il laisse un peu de suspense, qui est, il va le donner en mille à l'assistance, c'est Nicolas Sarkozy, et il dit, mais que de quoi pouviez-vous rêver, vous avez maintenant élu un président de la République juive. Bon, or la surprise, il y a devant lui l'ambassadeur d'Israël, je pense un certain nombre de juifs de Montpellier et de Languedoc, ils sont un peu surpris, et puis il insiste. Et ensuite, il va dire, et d'ailleurs, de quoi vous plaignez-vous, de surcroît, vous avez Bernard Kouchner. Bon, cela est pour le moins surprenant, parce que d'une part, quelles que soient ses origines familiales toutes respectables, Monsieur Sarkozy n'est pas juif, il a dit pendant sa campagne électorale qu'il était catholique, et donc là, Georges Frêche fait une très lourde
allusion. Et évidemment, ce n'est pas contre cela que la GRIF s'insurge, mais tout de même, cela semble un peu curieux, parce que cela peut provoquer, je pense, certains juifs se sont demandé si ça n'était pas de l'antisémitisme au deuxième degré. Parce qu'en fait, Georges Frêche va continuer, il va faire l'apologie du mur de ségrégation d'Israël. Bon, tous les juifs ne partagent pas le point de vue, un point de vue favorable à ce mur. Et puis, donc, il va continuer, donc, il va appuyer sur ce thème-là. Et surtout, il va attaquer les Libanais, qui, eux, enferment les Palestiniens dans des camps. Tout cela est assez hallucinant. Les amis de M. Ben Laden ne peuvent pas rêver mieux que de tels propos pour dialectiquement susciter une opposition, d'autant que Georges Frêche ajoute, oui, j'oubliais, à Montpellier, depuis 30 ans, on est en Eretz Israël. Alors, vous le savez, j'ai écrit un livre, Histoire des Juifs d'Abraham à nos jours, mais je peux témoigner de ce que jamais aucun sioniste, même les plus durs, comme Aki Meir ou Jabotinsky, n'avait imaginé que Eretz Israël puisse s'étendre juste au Languedoc-Roussillon. Hein, pour les plus durs des sionistes, cela va du Nil à l'Euphrate. Voilà. Mais je crois que là, l'ambassadeur d'Israël ferait bien de, et Nicolas Sarkozy, de donner les précisions qui s'imposent après ces propos hallucinants de quelqu'un qui semblait quand même un peu halluciné. Voilà pour l'affaire Georges Frêche. La GRIF le poursuit.
Alors,
pour injure.
Oui, sur quel motif poursuivez-vous?
Parce que tout simplement.
Il y a beaucoup de motifs possibles.
On sait qu'il y a en France une loi qui sanctionne les propos qui visent les ensembles religieux, l'appartenance à une communauté en raison de son identité nationale, religieuse ou autre. Or, en l'occurrence là, il l'accuse tous les Libanais d'être responsables de l'horreur des camps palestiniens. Or, je rappelle que les Libanais ne sont en rien les responsables de cela. Les responsables sont ceux qui, peut-être, d'abord, ont expulsé les Palestiniens. Ensuite, c'est l'ONU qui a imposé ces camps, et c'est la Ligue arabe. Donc là, tous les Libanais, nous en connaissons beaucoup, il y en a qui nous écoutent avec, je sais, beaucoup de sympathie sur Radio Courtoisie, ne peuvent pas accepter qu'on leur impute ainsi une responsabilité dans une situation tragique avec un accent injurieux. Voilà pour ce qui est de M. Georges Frêche.
Alors, autre sujet qui a été aussi évoqué par Serge de Beketch, Bernard Anthony, il s'agit de l'affaire des sous-chiens. Là aussi.
Alors là, l'affaire des sous-chiens nous a tout de suite interpellés, Jeanne Smith et moi et le bureau de la GRIF, mais nous avons un tout petit peu attendu. Je sais, il y avait dans nos courriers ou nos courriels des gens qui disaient « mais personne dont ne réagit », mais quelquefois, je ne me presse pas, j'attends un peu parce que j'attendais une réaction de Madame Rachida Dati, parce que s'il y a bien quelqu'un qui devait réagir pour un propos public tenu sur FR3 visant l'ensemble, enfin une part importante de la communauté nationale.
Oui, peut-être Bernard, est-ce qu'il faudrait expliquer à nos auditoires ce que c'est que sous-chien, parce que c'est pas évident.
Qui a dit quoi? Parce que c'est quand même incroyable.
Mais qu'est-ce que c'est qu'être sous-chien?
Mais j'y viens tout de suite. Alors là, c'est pour dire, la GRIF en effet a réagi contre le propos de Madame Ouria Boutelja, présidente de l'Association indigène de la République, qui sur FR3 a dit ceci, les blancs, il faut les rééduquer, tiens, ces blancs, il faut les nommer, puisqu'il faut les nommer, nommons-les les sous-chiens. Voilà. Alors, bien sûr, Madame Ouria Boutelda a dit « il n'y a pas de trait d'union ». J'ai parlé des sous-chiens en un seul mot, faisant allusion aux Français de « souche ». Mais il va de soi que c'est une colossale finesse. Hein, il va de soi qu'elle a fait un jeu de mots bâti sur l'homonymie et que c'est une expression raciste que relève même, d'ailleurs, après tout à mieux, le journal Marianne, ce qui sera dans le dossier de notre avocat. Alors, nous poursuivons. Pourquoi ? Parce que il y a un double procédé d'insistance. Il y a mépris contre les Blancs, en général. Madame Ouria, d'ailleurs, oublie qu'elle est elle-même je le lui rappelle, d'une sous-souche probablement arabo-berbère ou numido-vandale, une sous-souche de la race blanche, hein, qu'elle est donc elle-même, en prendre son vocabulaire, une sous-souchienne blanche, mais nous la poursuivons parce qu'elle a mis du mépris contre ceux qu'elle appelle les blancs, c'est-à-dire, et du mépris pourquoi ? Parce que il faudrait, dit-elle, leur apprendre, il faut les rééduquer.
Ça, c'est oui, les termes, c'est la rééducation des blancs.
Or, ça, c'est très grave. La rééducation, on sait ce que ça veut dire. On a connu ça, la rééducation. Déjà, sous la Révolution française, en effet, hein, on voulait rééduquer, régénérer. C'était le vocabulaire des génocidaires. Ensuite, dans le nazisme, il fallait aussi rééduquer. Dans le communisme, il fallait rééduquer. Alors, donc, la rééducation, pour nous, ça a une connotation sinistre. Ce sont les camps de concentration et quelquefois les camps d'extermination. Alors donc, nous allons demander à Madame Ouria de s'expliquer devant les tribunaux. Nous la poursuivons, la plainte, ça y est déposée, c'est parti, mais elle voudrait nous rééduquer pour nous faire connaître la mémoire de l'esclavage et la colonisation. Alors on va lui en parler à Madame Ouria de l'esclavage et la colonisation. Donc là, nous pourrions tenir une heure, on a souvent parlé sur Radio Courtoisie, mais on va lui rappeler que pour ce qui est de l'esclavage, par exemple, ben, tous les peuples ont pratiqué cela, hélas, avec plus ou moins d'importance, mais notamment les peuples arabes et les peuples africains. Jacques Herz, le grand historien, a fait là-dessus donc les études qui s'imposaient. On va, par exemple, parler à Madame Ouria de la façon dont les troupes de Mahomet ont déferlé sur le Maghreb avec les massacres si importants que l'on sait ou que l'on ne sait pas. La résistance héroïque, d'ailleurs, de la Kabylie avec la Kaina. Je pense que Madame Ouria, c'est peut-être, mais je crois qu'elle, il va falloir non pas la rééduquer, mais l'éduquer. Il va falloir l'éduquer, lui apprendre en effet qu'il y a eu de terribles épisodes dans l'esclavage et qu'il y a eu des colonisations absolument abominables, et notamment celle de l'Empire ottoman. On va lui parler des barbaresques qui pratiquaient la course sur toutes les côtes d'Europe pour remplir les harems et les bagnes de la Berbérie et de l'Empire ottoman. Voilà donc pourquoi, eh bien, nous en avons assez, nous aussi, de ces attaques incessantes contre ce que nous sommes, et après tout, nous sommes fiers d'être des sous-chiens. Et j'appelle plus que jamais à la révolte, au fond, des Français. On peut être Français de souche, il n'y a pas à avoir honte de cela. Alors, puisque on nous injurie parce que nous sommes des Français de souche, eh bien, j'avertis que les sous-chiens vont mordre de plus en plus. Madame Ouria Bouteldja.
Alors, je rappelle aux auditeurs que l'on peut adhérer à la GRIF et que la GRIF a besoin d'adhérents pour mener tous ces procès qui coûtent cher. Et donc, vous pouvez envoyer vos chèques d'adhésion au 70 boulevard Saint-Germain, 75005 Paris. L'adhésion, je crois, Bernard, Anthony...
C'est encore, on va devoir changer, parce que vraiment... Nous n'avons pas augmenté cela depuis, je crois, des années et des années. Bah, c'est 10 euros et 10 euros pour recevoir le bulletin de la GRIF. Voilà, en effet, nous avons beaucoup d'affaires en cours. Jeanne Smith.
Oui, il faut quand même rappeler que la GRIF, c'est l'Alliance Générale contre le racisme et pour le respect de l'identité chrétienne et française et chrétienne. Et que la GRIF existe depuis de longues années, peut agir en justice au même titre que la Ligue des droits de l'homme, SOS Racisme et tous les autres. Ça a été un combat long, un combat difficile qui a été initié par vous, il faut le rappeler, Bernard Anthony. Et la GRIF a un rôle tout à fait central à jouer dans ce combat pour le respect de ce que nous sommes et pour le droit de demeurer ce que nous sommes. Et là, je voudrais, en tant que directeur de présent, dire un petit mot d'un article qui est apparu il y a 6 jours, samedi dernier, qui est un entretien avec Olivier Drapé, directeur d'Ictus. Alors moi, je trouve tout à fait normal que le directeur d'Ictus, qui est également qui s'exprime dans la revue Permanence, s'exprime dans Présent. Je trouve ça normal. Je dirais en passant que Présent n'est pas cité, ou alors si peu, dans Permanence. Mais passons. Seulement, je crois savoir, Bernard, que vous qui aimez bien Présent, eh bien, vous avez été un peu irrité par cet article. Dites-nous pourquoi.
Oui, j'ai été irrité, il l'est vrai, mais ce n'est pas de l'irritation. Non, ce n'est pas de l'irritation. L'irritation, il y a une connotation un peu de caractère. Non, j'ai été attristé, j'ai été affligé. Parce qu'enfin, Je n'ai rien contre cette revue, nous avons un style différent, nous essayons de pratiquer l'amitié française, mais lorsque rue des Renaudes, qui est, ça a été connu sous le nom de cité catholique, il y a eu divers intitulés, on fait une revue avec des gens qui nous connaissent bien, consacrés au racisme et l'antiracisme, que l'on cite la LICRA, l'UMRAP, SOS Racisme, la Ligue des Droits de l'Homme, le Conseil représentatif des associations noires, et qu'on trouve le moyen de ne pas dire un mot de la griffe. C'est tout simplement faire de la désinformation. C'est faire une occultation très grave. Parce qu'on ne peut pas parler aujourd'hui en France, on ne peut pas, hein, même à la LICRA, qui ne nous aime pas beaucoup, mais enfin, la LICRA nous cite, et d'ailleurs reconnaît au moins une fois dans un article notre compétence. Alors ça me paraît très grave de la part de gens qui prétendent diffuser la doctrine sociale de l'Église, parce qu'enfin, nous en sommes au centième procès pour les Français, souvent, pour les chrétiens, souvent aussi, pour l'honneur de Dieu. Parce que dernièrement, un évêque me disait, il était sincère, oui, c'est vrai, je n'ai pas eu, moi, la phrase caricature du Christ en croix avec un préservatif paru dans Libération. Eh bien, il nous a fallu affronter, là, par exemple, un procès très difficile en première instance, un appel, les sarcasmes de la racaille vocifératrice. Alors là, j'ai été tout à fait affligé, tout à fait indigné. Et si bien que c'est un entretien qui est mené dans le journal présent, donc il est bon qu'il y ait ces entretiens, mais comme je suis aussi pour le libre débat, hein, surtout à Radio Courtoisie, et pour on peut exprimer notre affliction. Et là, par exemple, je suis heureux de lire que la rue des Renaudes rentre en dissidence dans cette interview dans présent. Alors ça, bravo. Mais quelle dissidence, parce que le seul homme politique, les seuls hommes politiques dont j'ai vu l'apologie dans Permanence, ça a été Philippe de Villiers, soit, mais Charles Pasqua. Alors tout de même, on présentait Charles Pasqua comme quelqu'un qui pouvait faire espérer. Bon, Charles Pasqua existe aujourd'hui, mais enfin tout de même. Et puis, dans cette université de la dissidence, on invite Monsieur Guillaume Pelletier, qui s'est désisté, secrétaire général du MPF, pour Donadieu de Vabre. Or, Donadieu de Vabre, qui, Dieu merci, n'a pas été réélu, était de ceux qu'il fallait faire battre, coûte que coûte. Il était le ministre de la Culture, dans la course de tête de l'abomination culturelle avec Jacques Lang et Douste Blasi. Il était, le Donadieu de Vabre, c'est celui qui avait approuvé le théâtre de la ville, où, que les auditeurs me pardonnent. Donc, il y avait toutes les scènes scatologiques et leur délicieux plaisir à ces acteurs de vous souvenez, j'en ai parlé ici même, donc c'était, après avoir uriné sur la scène, d'expédier à grands coups de pied l'urine sur le ministre Donadieu de Vabre. S'il aime ça, Donadieu, c'est très bien, mais quand on est chrétien, quand on est français, on ne se désiste pas pour un tel ministre qui a cautionné des abominations absolument incroyables. Donc voilà, université de dissidence, je n'en crois rien, hein, puisque là, il y avait la preuve que M. Guillaume Pelletier sera lié, non seulement était de ce système-là, mais faisait appel pour un des pires de ce système. Parce que je connais d'honnêtes députés de l'UMP qui étaient affligés de ce que pouvait cautionner ce ministre de la Culture-là.
Mais nous verrons d'ailleurs tout à l'heure, à propos d'un procès qui est intenté à présent, les conséquences de l'action de ce très mauvais ministre, de ce très mauvais ministre de la Culture. Alors, un auditeur nous demande de redonner l'adresse de la griffe.
70 boulevard Saint-Germain, Paris 5e. Voilà. Paris 5e. Merci à cet auditeur.
Boulevard Saint-Germain. Donc la griffe, je rappelle, c'est A-G-R-I-F. Donc L'A-G-R-I-F.
Et la griffe a d'ailleurs d'autres procès en cours. Il ne faut pas les oublier, notamment celui qui vise le patron de L'Oréal.
Alors, non, il n'est pas encore en cours.
Il n'est pas encore en cours, il va l'être.
Voilà, Jeanne, merci. Eh bien, oui, les auditeurs de Radio Courtoisie vont avoir la primeur de ce que je vais suggérer, mais je crois que je vais être approuvé au bureau de la griffe Et après avoir pris conseil de nos avocats, mais là je suis assez sûr de moi, on a quand même un peu de métier et d'expérience, en l'occurrence c'est vous, Cécile Montmirail, qui avez eu la bonne idée de m'amener ces numéros du journal Le Monde que je n'ai pas lu, sur la discrimination positive pratiquée par la grande entreprise L'Oréal.
Oui, c'est vrai que le Monde a parlé de cette affaire pendant quelques semaines, pour d'abord nous annoncer que L'Oréal était condamné parce qu'il avait pratiqué de la discrimination à l'embauche. Et ensuite, il y a eu une interview du patron actuel de L'Oréal, Jean-Paul Agon, qui, lui, au contraire, explique qu'il pratique la discrimination positive.
Il explique ceci. Je vous coupe, Cécile, excusez-moi. Aujourd'hui, lorsque nous rencontrons un candidat qui a un prénom d'origine étrangère, il a plus de chances d'être recruté que celui qui porte un prénom français de souche.
Et c'est effectivement une atteinte.
Qu'est-ce que ça veut dire que cela ? J'ai en ce moment deux de mes enfants qui cherchent du travail, donc ils portent le nom d'Anthony, qui est un vieux nom tout de même, bon, ça remonte chez moi en Bigorre, sans doute, à une occupation anglaise qui n'est pas si loin dans l'histoire, ça fait quelques siècles. Mais enfin, tout de même, voilà, c'est un nom de souche, il y a une ville, la région parisienne qui s'appelle comme ça. Alors donc, ils ont moins de chances d'être embauchés parce qu'ils s'appellent Anthony, parce qu'ils s'appellent Dupont, parce qu'ils s'appellent Fideras, parce qu'ils s'appellent Montmirail. Mais enfin, nous rêvons
de quoi. C'est ce que dit monsieur Jean-François Amadieu.
C'est là que la griffe a tout son rôle à jouer. Nous travaillons dans le cadre des lois, même si ces lois ne sont pas toutes bonnes. Alors, en l'occurrence, c'est là, il y a une loi dite antiraciste qui interdit donc de pratiquer, hélas, la préférence nationale. Mais là, d'une manière cynique, ces grands patrons annoncent qu'ils pratiquent la préférence antinationale. C'est pas du racisme, ça, c'est du racisme, si je puis dire, pur porc ou pur chien.
C'est d'ailleurs ce que vous expliquez depuis des années, en expliquant ce que c'est que ces lois antiracistes, prétendument antiracistes, et qui en fait sont là pour favoriser l'étranger.
Alors, d'ores et déjà, nous avions poursuivi et nous avions été déboutés. Donc, les inspirateurs de la HALDE, et notamment Monsieur Bébéard, PDG d'AXA, mais il n'y avait pas des déclarations aussi flagrantes. Tandis que là, nous sommes donc devant donc une affirmation de... Alors que je rappelle, on a condamné des hommes politiques, des amis, pour avoir affirmé leur attachement au principe de la préférence nationale. Le Front National a été traqué pour cela. Et donc, aujourd'hui, donc c'est chez nous la préférence antinationale qui régnerait. Mais là, j'appelle vraiment les sous-chiens à soutenir la griffe.
Et une bonne occasion de soutenir la griffe et de se mobiliser pour connaître ces procès, connaître ceux qui se battent au quotidien, c'est la journée de la griffe qui va être organisée le 23 septembre à Villepreux. Bernard, peut-être pouvez-vous nous donner quelques éléments sur cette journée ?
Oui, étant donné que d'ailleurs vous en serez, que Jeannette Smith aussi, et que les avocats de la griffe seront là, en fait nous convions d'abord en priorité tous les adhérents de la griffe de l'Île-de-France. C'est une convention des adhérents de la griffe de l'Île-de-France, parce que nous voulons les rencontrer, répondre à leurs questions, et il n'y aura donc pas de longues allocutions. Pour ma part, je lirai, mais la primeur, ça sera ce jour-là, une lettre que je vais adresser à Nicolas Sarkozy. Elle fera le point sur l'état de la question de l'antiracisme, de la discrimination positive dans notre pays, et ce que nous attendons, puisque pendant sa campagne électorale, il a employé les mots sympathiques de patriotisme, d'identité nationale. Donc, je dirais cela. Mais surtout, nos adhérents et nos amis qui nous écoutent, et donc il y aura naturellement tous les journaux de la presse amie, tous invités, les personnalités de la résistance nationale, donc pour répondre à leurs questions, ça sera surtout une journée de rencontre, de connivence, un mot d'élaboration de cette résistance qu'il faut réinventer chaque fois que la France est menacée, donc 23 septembre à Villepreux, au domaine de Grand Maison, nous en reparlerons dans d'autres émissions. Voilà, nous allons...
Les auditeurs pourront retrouver tous les détails techniques sur le site de Reconquête.
Sur le site de Reconquête, sur le site de la GRIF, sur mon blog qui reprendra à la rentrée. Et dans présent, naturellement, je pense que Jeanne n'y verra pas d'inconvénient.
Nous avons l'habitude d'annoncer ce genre de journée.
Alors Bernard, vous avez rappelé à juste titre la politique néfaste qui avait été menée par le ministre de la Culture de Chirac, Monsieur Denodieu de Vabre. Et je me tourne vers vous, Jeanne Smith, parce que vous en avez fait les frais, ou vous êtes en train d'en faire les frais, puisque vous êtes attaquée pour avoir mis en cause une exposition pour le moins scandaleuse.
Alors, il s'agit en réalité d'une exposition qui a eu lieu il y a 6 ans. Une exposition à Bordeaux dont on avait relativement peu parlé à l'époque, parce que ça s'était passé dans une ville de province. Ça s'appelait Présumé innocent, c'est une exposition sur l'art contemporain et l'enfance. Alors présumé innocent, évidemment, on pense immédiatement pas innocent du tout. Et effectivement, lorsque l'on feuillette le catalogue de cette exposition, ou lorsque l'on écoute le témoignage de personnes qui s'y sont rendues, eh bien, ce qui y était visible était au-delà de l'imaginable.
Je confirme, puisque nous avons regardé le livre de l'exposition que nous avons là sous les yeux et qui est proprement, Enfin, c'est incroyable de oser montrer des choses pareilles, aussi laides, aussi
perverses, on
aussi
peut dire
perverse,
le mot.
Hein, vous l'avez regardé aussi, Bernard Anthony.
Je veux retenir mon vocabulaire, parce que certains m'en feraient le reproche, mais enfin, je ne suis pas né de la dernière pluie. J'ai été élevé dans un lycée d'État. Je dois dire que ce n'était pas toujours triste sur le plan d'une certaine grossièreté, il faut bien dire, de la plupart des élèves qui le fréquentaient. J'ai été parachutiste, mais et puis j'ai chanté des chansons
paillardes. Vous voulez nous dire que vous n'êtes pas bégueule, c'est
ça ? À la faculté, je ne suis pas bégueule et puritain, mais ce que je vois là, c'est affreux. Et je pense à la parole du Christ dans l'Évangile, ceux qui scandalisent les petits enfants, mieux aurait valu pour eux qu'on leur mette une meule de moulin autour du cou et qu'on les précipita dans les abîmes. Parce que ce que j'ai vu dans ce livre-là, je ne m'y attendais pas. C'est donc, tenons-nous en là, de la perversité. Mmh. Et là, donc, cela a été cautionné, effectivement, par Monsieur Donne-Dieu de Vabre. Et on voulait faire réélire cet homme-là. Ben, nous, oui, nous sommes en dissidence, mais à une nuance près, c'est qu'on a toujours été, et quelquefois mettant notre peau au bout de nos idées. Et là, je dois dire, il faut mobiliser tout ce qu'il y a de sain, de salubre, de réaction dans ce pays, tous ceux qui croient au décalogue, les catholiques, les juifs, tous les Français, de quelque origine que ce soit, hein, parce que, par exemple, je sais que quand je vais montrer ça à mes petits filleuls vietnamiens, ils vont dire, mais c'est pas possible, quel pays nous a adoptés, hein. Ça, donc, nous allons appeler à faire un bloc autour de présent, bloc autour de Jeanne Smith, et j'emploierai à la barre des mots beaucoup plus vifs d'indignation que ce que je suis en train de faire là.
Alors, je rappelle à nos auditeurs que nous sommes sur Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel, sur 95,6 MHz. Alors,
oui, pour vous expliquer pourquoi nous sommes poursuivis. Alors, il y a eu donc cette exposition et une association de défense de l'enfance qui défend notamment des parents d'enfants violés, d'enfants massacrés, d'enfants torturés. Eh bien, cette association a porté plainte contre le directeur du Centre d'art contemporain de Bordeaux, qui à l'époque était Henri-Claude Cousseau. Et cette plainte le visait à propos de la mise en scène d'enfants dans des œuvres d'art contemporain, si l'on peut parler du terme art dans ce contexte, des enfants qui étaient donc montrés dans des positions qui pouvaient donner de drôles d'idées à des pervers, et puis également poursuivis parce que un certain nombre d'enfants avaient visité l'exposition et ils n'étaient pas tout à fait sûrs que les œuvres les plus choquantes aient bien été écartées de leur chemin. Eh bien, cela s'est passé donc il y a 6 ans, et l'an dernier, Le parquet a donné suite en mettant en examen Henri-Claude Cousseau et de cela, présent a rendu compte, tout à fait normalement, et nous avons eu, par la plume d'un de nos journalistes, qui en l'occurrence n'était pas moi, des mots assez vifs à son égard, ce qui, en l'occurrence, me semble-t-il, se justifiait, puisque l'art contemporain revendique le droit de tout montrer, et bien nous revendiquons le droit de dire, comme le Christ, pour lui mieux eût valu qu'il eût une meule autour du cou, en l'occurrence ce n'est pas ça qui a été dit, mais on avait posé des questions sur l'opportunité de sa mise en examen et on avait conclu que c'était quand même très bien. Eh bien, Henri-Claude Cousseau poursuit présent pour diffamation et réclame 30 000 euros, rien que ça, plus 5 000 euros pour payer des frais de justice. Donc il y a de quoi vraiment faire beaucoup de mal à un petit journal comme présent qui seul dans le monde médiatique avait réagi. Parce qu'il faut bien dire que non seulement des hommes politiques, tous les ministres de la culture, présents et passés, tous les Alain Juppé qui, à l'époque de l'exposition, avaient interdit à ses adjoints de s'y rendre, ou en tout cas de se rendre au vernissage, eh bien Alain Juppé aussi était venu au secours d'Henri-Claude Cousseau, qui n'avait plus besoin de personne, parce que vraiment, tout le monde s'est mobilisé pour lui. Il faut bien comprendre que l'art contemporain, c'est un monde où on gagne beaucoup d'argent, où on a beaucoup, beaucoup d'intérêts en jeu. On ne touche pas à l'art contemporain. Le cardinal Barbarin lui-même, qui a osé dire qu'une exposition d'art contemporain, ça n'était pas de l'art, eh bien, lui, il est poursuivi pour injure. Il faut quand même le faire.
L'extraordinaire, c'est que ce sont ces gens qui disent qu'on peut tout dire, tout montrer, oui, tout prôner, toutes les perversions, mais qui s'indignent quand, à ce moment-là, nous disons ce que l'on pense d'eux. Ben, je dois dire qu'ils vont en entendre.
Ils vont en entendre, et en plus, on va beaucoup en rire, parce que franchement, lorsque l'on voit ce qu'ils proposent à nos regards et à nos portefeuilles, qui, et heureusement, sont assez peu garnis pour acquérir leurs œuvres, eh bien, je pense qu'il faut en faire un grand thème de campagne. Parce que si l'on veut vraiment faire œuvre culturelle, il faut dénoncer cette contre-culture, cette anti-culture. Je crois que c'est un cheval de bataille vraiment très, très important.
Il faut ajouter qu'ils sont nuls, qu'il n'y a aucun humour, que c'est uniquement la volonté de pervertir, de salir. Mais bien sûr, cela évacue l'intelligence, l'imagination. Et encore une fois, là, je crois, voyez-vous, que c'est plus tellement droite ou gauche, c'est en réalité la santé et la maladie qui s'opposent. Ce sont des malades.
Exactement,
mais
exactement.
Des malades au plus mauvais sens, parce qu'on sera tous malades de quelque chose. Je dis par là des malades d'une corruption qu'ils cultivent et qu'ils veulent diffuser. Ils sont des propagateurs de sida, incontestablement. Peut-être vont-ils me poursuivre aussi. Eh bien, j'en serais très heureux.
Et ce qui est certain, c'est qu'ils vivent de procès. Cela est très bien expliqué par Christine Sourgins dans un livre qu'il faut lire. Je l'ai lu à l'occasion de ces poursuites. Cela s'appelle Les Mirages de l'art contemporain. Cela déjoue complètement toutes les ficelles de cette opération financière très juteuse. Et je crois qu'il faut absolument lire Les Mirages de l'art contemporain publié par la Table Ronde, Christine Sourgins. Et il faut lire présent dans les semaines qui viennent parce que nous allons reparler de ce procès. Et je crois vraiment que nous touchons là à quelque chose de fondamental parce que tous nos enfants dans les écoles sont traînés en bande dans ces expositions d'art contemporain où ils vont obligatoirement, et c'est une façon de les pervertir aussi.
Oui, et puis je crois que c'est aussi une façon de créer des obsessions chez des êtres fragiles. Et là, comment ne pas faire le lien, Olivier Filleras, avec ce dont je suis pour ma part incapable de parler. J'ai consacré la une de Reconquête à ce que je crois être l'abomination du jugement des meurtriers, des bourreaux, des tortionnaires, des monstres qui ont tué Sally, donc fait souffrir la petite Jeanne-Marie.
Vous étiez là. Et également deux autres.
Et deux autres encore. Mais comment ne pas faire le lien entre ce que j'ai vu dans ce livre, que je ne décrirai pas, donc, et les perversions qui ensuite donc, n'ont plus de limite aucune. Vous étiez à ce procès. Je rappelle que l'avocat de la famille Kegelin était notre ami Valrande Saint-Just, vice-présidente de la Griffe, comme vous, Jeanne. Je crois que Valrand a épousé, ça a été la cause probablement pour lui la plus terrible qu'il ait eu jamais à mener. Vous étiez là, Olivier, à Strasbourg.
Oui, effectivement. Enfin, je n'ai pas suivi tout le procès qui a duré quand même 3 mois, qui comportait des centaines et des centaines de pièces, de dossiers, 40 000 cotes au total, quelque chose d'impressionnant. Mais j'ai assisté à certaines des journées, j'allais dire les plus marquantes, et notamment en fin de procès, aux plaidoiries des parties civiles et des avocats généraux, qui nous ont proposé une espèce de condensé de ces horreurs et de choses qu'on a, vous m'excuserez, beaucoup de mal à imaginer, qui polluent, à mon sens, la mémoire des gens comme moi qui ont été contraints d'assister à un procès, qui se retrouvent en quelque sorte victimes de, à un degré évidemment bien moindre que les victimes elles-mêmes et leurs familles, mais qui se retrouvent victimes de cette espèce de folie abominable qui s'empare de certains êtres dont on a appris hier que le jugement, du moins du point de vue du procureur général, ne serait pas renvoyé en appel. Donc les 16 co-accusés de Pierre Bodin, qui a été condamné, qui ont été, eux, jugés innocents, ne seront pas poursuivis de nouveau. Alors on sait qu'il y a dans ce procès finalement une pollution autre qui est venue du fait de rivalités internes entre les enquêteurs, entre les juges d'instruction, qui se sont un peu tirés dans les pattes, qui n'étaient pas d'accord entre eux, qui se sont opposés, qui ont fini par imposer aux familles un autre procès que celui qui aurait été nécessaire, qui était celui de juger les actes eux-mêmes, mais qui par leur par tout un jeu de que j'ai beaucoup de mal à comprendre, moi, de rivalité, ont fini par dépasser la réalité première, qui est ces meurtres abominables qui ont été commis sur une jeune femme, Edwige Vallée, et deux enfants, Julie Charge, qui avait 14 ans, et Jeanne-Marie Quégelin, qui n'avait que 10 ans, qui était donc le cas le plus emblématique, puisqu'il y avait 17 personnes poursuivies dans cette terrible affaire, avec des circonstances qu'il est difficile de rappeler sans trembler, je crois.
Oui, je pense que à la radio, c'est infiniment difficile. Les auditeurs de Radio Courtoisie sont intelligents et savent de quoi ils retournent. Voilà.
Et je crois que ce procès de la pauvre petite Jeanne-Marie a mis en évidence une grande misère de la justice. La première misère venant du fait que les aveux des 16 co-accusés n'ont pas été pris en compte parce qu'il y avait eu outreau. Et avec outreau, il y a la parole des enfants qui a été trop écoutée, il y a la parole des experts qui a été trop écoutée. Et lorsque Olivier Figueras est revenu de ce procès, il avait une impression très forte que la justice était en train de se mécaniser et qu'au fond, on ne regardait plus l'élément humain. Et ça, j'aimerais que vous nous en disiez un mot. Et d'autre part, il y a le non-aveu de Pierre Bodin qui, lui, a été accusé, pour le coup. Et ce non-aveu vient du fait que, eh bien, il n'avait rien à gagner à avouer. Or, au temps où il y avait la peine de mort, l'aveu pouvait sauver la tête d'un homme. Alors, est-ce que cela ne vous a pas beaucoup frappé?
Effectivement, Pierre Bodin, finalement, a été condamné pour une raison très simple, c'est qu'il y a un tel faisceau de preuves scientifiques contre lui dans les trois crimes en question, sans compter quelques autres cas d'enlèvement qui n'ont pas abouti, donc qui n'ont pas abouti à des meurtres, que les jurés ne pouvaient faire autrement que de le condamner devant toutes ces preuves qui l'accablaient. Mais les 16 autres co-accusés, il n'y avait pour eux aucune preuve scientifique. Et finalement, on finit par se demander si le jury sert à quelque chose, s'il suffit de poser les preuves scientifiques et de dire il est coupable. Ben c'est fini, c'est ce qui s'est passé un peu à Strasbourg, dans cette cour d'assises. On pense quand même que pour les 16 vanniers des deux clans Furman-Remeter, sur les 16 qu'ils étaient poursuivis, 14 ont porté des aveux. Les avocats généraux ont compté qu'au total, 165 fois en 2 ans, ils se sont mis en cause eux-mêmes ou leurs cousins, leurs frères, leurs proches, s'accusant des pires horreurs. Et d'imaginer qu'aujourd'hui, des gens qui sont capables de dire des choses pareilles, de simplement de les penser, puisqu'ils ne sont pas coupables, c'est presque pire que de penser qu'ils sont coupables.
Et comme le dit Jeanne Olivier, je pense que c'est là le désastre qui continue de l'affaire Outreau, parce que l'affaire Outreau, on avait pris pour argent comptant, sans vérification, des propos d'enfants, hein, tandis que là, hein, avec peut-être 1% de chance d'erreur pour tel ou tel de ces accusés, donc on libère ceux qui ont, d'évidence, c'était l'opinion de tous, hein, ceux qui ont participé de près ou de loin, mais hélas, de très près, parce que Pierre Baudin n'a pas pu faire cela tout seul, nous le savons bien.
Oui, on le sait, dans le cas de Jeanne-Marie, il y a des circonstances très précises qui font qu'on sait que Pierre Baudin n'a pas pu l'enlever, la séquestrer, la violer et la dépecer comme cela a été fait, puis la tuer seule. Sans entrer dans trop de détails, les marques qu'elle porte, un de mes confrères journalistes a osé écrire qu'elle avait été lardée de coups de couteau. Lardée de coups de couteau, on sait qu'en fait, elle a été découpée chirurgicalement, avec une précision chirurgicale très grande, au bas-ventre, éviscérée, nettoyée, avec une telle précision qu'on sait que ce ne pouvait pas être le fait d'un seul homme, parce qu'on sait qu'à ce moment-là, par les constats médico-légaux qui ont été faits après, on sait que cette opération, cette horrible opération a été faite alors que Jeanne-Marie était non seulement vivante, mais consciente, et qu'il était strictement impossible à un homme de faire ça, au moins d'être vivant, sans qu'il se débatte. Donc on sait que la pauvre petite fille a été maintenue par des inconnus, puisqu'on nous prétend aujourd'hui que les seuls, ceux qui se sont accusés pendant 2 ans de tout cela, en fait, sont tout à fait innocents et n'ont rien fait.
C'est insupportable d'entendre vos simples mots racontés et dire qu'elle l'a vécu, c'est insupportable.
Je voudrais ajouter quelque chose, cette petite Jeanne-Marie a un rayonnement extraordinaire, je voudrais le dire, c'était l'innocence, et dans l'affaire d'Outreau, il y a eu donc des aveux d'enfants, il y a eu des accusations d'enfants. Or, moi j'en ai lu de ces accusations. Ce que ces enfants étaient capables d'imaginer prouvait qu'à tout le moins dans leur famille, les cassettes pornographiques circulaient en famille et que tout le monde les regardait. Et qu'on est là dans une espèce de noir et blanc. Vous avez d'un côté une société qui est capable d'emmener des enfants voir des expositions où ils voient les pires perversités. Ils sont dans une société où ils peuvent en famille regarder les pires horreurs et les ressortir et les rendre tellement vraisemblables que des juges sont capables de croire qu'ils ont subi tout cela. Et en face, vous avez la figure lumineuse de cette petite Jeanne-Marie. Je crois que là, c'est un combat qui nous est donné là.
Oui, alors un auditeur nous pose une question, est-ce que c'est pour cela que vous continuez vos campagnes pour la peine de mort? Nous n'avions pas attendu ces abominations pour être partisans de la peine de mort, mais plus que jamais, et il l'ajoute en tant que chrétien, oui bien sûr en tant que chrétien, je rappelle en effet que dans le catéchisme de l'Église catholique, la peine de mort est reconnue comme possible, comme quelquefois reconnue nécessaire par les autorités dans les crimes les plus graves. C'est le pape Pie XII qui disait la peine de mort est légitime pour des monstres qui se sont dépossédés de leur humanité, je ferme les guillemets. Or là, ceux qui sont capables de faire ce que Olivier Fideras a décrit, ce sont évidemment des monstres dépossédés de toute humanité. Et je renvoie les auditeurs de Radio Courtoisie lisent beaucoup, on le voit lors des ventes de livres, s'ils peuvent trouver le très beau livre sur la peine de mort du père Brut Berger, qui pourtant n'était pas un sanguinaire, c'est un très grand écrivain, ça a été un personnage donc tout à fait remarquable. J'étais pas d'accord avec lui surtout, mais ça c'est une autre affaire. Mais il était un homme d'une grande profondeur. Il avait accompagné d'ailleurs son ami Joseph Darnand, héroïque combattant des corps francs et puis chef de la milice, son grand ami. Ils étaient dans les camps opposés, il a accompagné jusqu'à la mort, et il a fait des pages là-dessus que je voudrais republier prochainement, d'une manière ou d'une autre. Alors donc, peine de mort, oui, bien sûr, parce que comme l'a rappelé Jacques, comme Valéran de Saint-Just nous l'a souvent dit, hein, lorsque la peine de mort existait, hein, qu'il y avait donc cette éventualité, on disait, ben, si tu avoues, hein, peut-être que cela te sauvera. Tandis que là, M. Baudin n'avait pas du tout intérêt à avouer. Voilà pour ce qui est de ce procès. Mais je dois dire aussi, Valéran de Saint-Just en a parlé, le redira probablement, il y a eu d'incroyables carences de l'enquête de gendarmerie. Et il y a eu donc aussi une attitude d'une certaine presse qui a été absolument ignoble, il n'y a pas d'autre mot, parce que leur sollicitude allait aux meurtriers, aux bourreaux, et tout leur mépris allait à la famille, parce qu'elle était catholique, française, qu'il y avait plusieurs enfants. Il y a eu là aussi l'expression d'un racisme anti-français et anti-chrétien qui était particulièrement, qui dépassait toutes les bornes possibles.
Oui, quand le procès s'est ouvert il y a 3 mois, je me souviens d'une dépêche Reuters qui faisait le parallèle entre la famille Quégelin, c'était les Lequesnois, et puis les Furman Remeter, et bien c'était les Groseilles. Les amateurs de La vie est un long fleuve tranquille auront apprécié, mais pas nous.
Alors, dernier cri face à cette chienlit qui se déverse sur nos enfants, concernant l'affaire du film qui a été primé à Cannes, qui on vient de l'apprendre, pourra être diffusé dans les collèges et les lycées. Jeanne Smith, peut-être pouvez-vous rappeler aux auditeurs de quoi il s'agit?
Alors, je vais le rappeler brièvement. Le film 4 mois, 3 semaines, 2 jours a été primé à Cannes. C'est le film d'un jeune réalisateur roumain qui s'appelle Christian Menghiu. Dans ce film, qui dure quand même 2h10, il raconte un avortement clandestin, puisque du temps de Ceausescu, pour des raisons natalistes, nous apprenons et nous dit-on avec beaucoup d'ironie dans la voix, l'avortement était interdit. Et c'était finalement le dernier acte de liberté et d'opposition au régime que de recourir à cela. Or, le cinéaste raconte tout cela dans des conditions une technique assez réaliste. Il filme une jeune fille et son amie qui va se dévouer pour l'aider à obtenir cette opération. La jeune femme en question donc va voir un avorteur qui s'appelle le docteur Bébé. On rigole très fort. Et le docteur Bébé va exiger un paiement en nature des deux jeunes femmes. Je ne vous fais pas là non plus de dessin. Il paraît que la scène est décrite de façon assez sobre, avec une caméra qui regarde ailleurs, mais bien, on comprend bien de quoi il s'agit. Et ensuite, il procède à l'opération, non sans l'avoir décrite de façon très 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 réaliste, l'opération qui va avoir lieu à 4 mois, 3 semaines et 2 jours, donc sur un fœtus très bien formé. Eh bien, la caméra va montrer tout cela et va s'attarder longuement sur le petit fœtus, sur le petit enfant mort qui gît sur le sol de la salle de bain, et que l'ami dévoué qui aura décidément tout fait se chargera d'aller faire disparaître dans une traversée de Paris moderne. Eh bien, ce film a donc été primé, et non seulement il a été primé à Cannes, mais également par l'Éducation nationale, et par conséquent, il va pouvoir être exploité dans les écoles. Non seulement dans le cadre des études de cinéma telles qu'elles peuvent se faire pour un bac ciné, mais aussi dans le cadre de visites au cinéma qui concernent à peu près 1 million de collégiens et lycéens par an. Xavier Darcos s'en était ému. Il avait fait voir ce film par des membres de son cabinet et il avait trouvé que les images étaient peut-être un peu trop dures pour des adolescents. Alors, c'est un film à double tranchant. Je pourrais vous en dire un peu plus lorsque je l'aurai vu en pré-projection, ce qui ne saurait tarder. Mais c'est un film à double tranchant parce qu'à la fois, il parle d'un acte de liberté, d'un acte d'amour, qui est le fait d'accompagner son ami pour un avortement. Bon, je pense que c'est dans ce sens-là que qu'il va être exploité dans les écoles. Mais en même temps, il montre la réalité crue de l'avortement. Et ça, finalement, c'est ce que les avorteurs ne veulent pas. Donc vraiment, là, il y a une réflexion à mener, je pense. Mais en attendant, il y a le fait que ce film va pouvoir être montré dans les écoles. Et pourquoi ? Eh bien, je crois que Olivier Figueras a raconté ça dans Présent daté de demain. Il faudrait en dire deux mots. Ce film va pouvoir être projeté.
Je rappelle juste que nous sommes sur Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel. Et comme nous l'a fait remarquer un auditeur, on peut écouter également Radio Courtoisie dans toute la France.
Sur Internet notamment. Alors sur 4 mois, 3 semaines, 2 jours, c'est autorisé donc pour des plus de 12 ans ?
Alors en fait, il y a donc eu, comme vous venez de le rappeler, cette pression, cette opposition contre Xavier Darcos qui avait manifesté quelques légers doutes sur la capacité des enfants à voir ce film. La commission qui devait donner son avis, auquel Xavier Darcos avait décidé de se ranger, c'est une fois qu'elle aurait donné son avis, il y a 15 jours, dans une première réunion, avait estimé que finalement, il faudrait l'interdire au moins de 12 ans. L'un des membres de cette commission, ils sont 5, envisageait même de proposer que ce soit interdit au moins de 16 ans. Je ne sais pas s'il y a 16 ans, ces images sont très agréables, mais enfin, il y avait au moins une certaine tension dans leur regard. Ils se disaient que finalement, c'était peut-être pas si mal de faire attention à ce qu'on montrait aux enfants. Et puis, il y a eu toute cette campagne, et hier, la commission a visionné le film, et l'ayant vu, elle a décidé qu'il serait tout public. Tout public, avec un avertissement. L'avertissement, c'est que ça peut heurter certaines sensibilités, surtout chez les jeunes enfants, et que pour aller voir ce film, il vaut mieux être accompagné. Que je sache, je n'imagine pas accompagner un de mes enfants voir ce film, accompagné ou pas, je crois que ce genre d'image heurterait très violemment n'importe quel enfant. Et n'importe quel adulte, à mon avis, aussi.
Et donc, ce film va être exploité par la volonté du ministre Xavier Darcos, qui, en l'occurrence, s'est dédié. Il a reculé sous la pression des lobbies, et notamment de la Ligue des droits de l'homme, qui, elle, depuis longtemps, milite pour que tout soit visible au cinéma, et que l'on ne distribue plus de visas de plus de 18 ans, parce que c'est un scandale d'empêcher l'accès à la culture, comme dit la Ligue des droits de l'homme. Là, nous sommes devant un scandale qui, finalement, est rattaché à celui de présumé innocent, il est rattaché à l'affaire Jeanne-Marie, il est emblématique de la culture de mort dans laquelle nous vivons aujourd'hui.
Jeanne, beaucoup de questions nous arrivent, voulez-vous peut-être que nous en traitions quelques-uns, parce que les auditeurs pourraient s'impatienter.
Voilà.
Il y a des questions qui vont dans le sens que nous avons traité, nous n'y revenons pas, mais là, pouvez-vous peut-être les ordonnancer un tout petit peu?
Alors je vais le faire, et parce que je signale aux auditeurs de Radio Courtoisie que Cécile Montmirail a dû quitter le studio et ne pouvait pas rester avec nous plus longtemps. Alors nous passons aux questions, et la première concerne l'affaire des infirmières bulgares. Alors nous en avons parlé avant cette émission, Bernard Anthony. Que pensez-vous de ces infirmières rançonnées par le musulman Kadhafi ? Est-ce que vous diriez les choses comme cela ?
Oui, écoutez, nous avons tellement de sujets d'indignation, nous venons de le prouver, à propos de ce que fait ou ne fait pas, ou de ce que cautionne ce gouvernement sur ce plan-là. Je ne veux pas réagir à chaud. Il est bon que ces malheureuses infirmières aient été libérées enfin, parce qu'elles étaient d'évidence détenues en otage, procédant à un chantage. On sait fort bien qu'elles n'avaient pas du tout donc procédé à une volonté quelconque de diffusion du sida, pas plus, pas moins que Monsieur Fabius, hein, donc dans l'affaire du sang contaminé. Mais je crois que, après tout, on est allé les chercher, qu'il y ait exploitation de cela,
Oui, bien sûr, mais ce qu'il faut surtout observer, c'est que nous avons été là en présence d'un phénomène somme toute traditionnel, celui du chantage aux otages, hein, celui dont de ceux que l'on détient dans les prisons et que l'on vend. C'était une vieille pratique barbaresque, ça a duré pendant des siècles. Il y avait même un ordre religieux spécialisé en Espagne, l'ordre de la Merced, qui rachetait les captifs, ainsi d'ailleurs dont le père de Don Quichotte Cervantes a été racheté, hein, là je crois que le colonel Kadhafi est à sa façon un traditionnaliste. Ce que nous aurions aimé, c'est que l'affaire soit traitée plus vite, mais enfin elle l'est. On ne peut pas, je pense, en tenir rigueur au gouvernement français.
Alors, il y a bien sûr une donnée particulière. On ne sache pas que les enfants victimes du sang contaminé en France aient été indemnisés comme vont l'être les petits Libyens. Mais il est vrai que leur famille n'était pas assise sur des puits de pétrole. Alors, que pensez-vous de cette intervention donc de Nicolas Sarkozy et de sa femme, de son épouse Cécilia en Libye? Est-ce qu'il n'y a pas eu un jeu politique? Est-ce qu'il n'y a pas eu la défense d'intérêts français? Comment voir tout cela?
Alors là, écoutez, je suis assez dur avec Nicolas Sarkozy. On m'a entendu à propos du gouvernement, on nous a entendu. Ben là, jusqu'à preuve du contraire, réflexion et documentation, je ne chargerai pas beaucoup. Qu'eût-il fallu faire autrefois? Donc sauter sur, envoyer nos parachutistes en Libye, déclarer la guerre au colonel Kadhafi? Nous avons ici même donc dit qu'il ne fallait pas faire la guerre en Irak. Voilà. Bon, alors donc, je trouve quelques contradictions chez certains de nos amis qui étaient violemment opposés à la guerre en Irak et qui disent qu'il aurait fallu procéder autrement. Deuxièmement, on nous dit, il y a les intérêts pétroliers de la France, c'est-à-dire du groupe Total, qui ont été négociés là-dedans. Mais enfin, raisonnons aussi. Ben, ou bien on reproche aux Américains de vouloir tout le pactole, le pétrolier, ou bien on veut quand même, nous aussi, préserver nos intérêts. Alors, je ne suivrai pas dans ce que je crois être juste la preuve d'autres choses plus honteuses. Entendons-nous bien. Je n'ai pas tous les éléments du dossier. Ça n'est pas l'affaire qui m'indigne le plus. Je dois dire que je ne monte pas au filet dans cette affaire-là. En revanche, oui, en effet, je trouve, mais on peut toujours, les conséquences de la France qui a abandonné ses provinces du sud de la Méditerranée, parce que là, la France avait une immense possibilité énergétique pour son avenir. Alors aujourd'hui, nous acceptons, et ça c'est tragique, le chantage de certaines puissances arabo-musulmanes, et c'est dommage, mais nous payons les conséquences des fautes passées.
Eh bien, merci pour cette réaction. Un auditeur de Radio Courtoisie pose lui un petit coup de gueule. Il dit, il est temps de parler un langage musclé, car il est temps de gueuler et hurler la vérité, car nous sommes en train de disparaître.
Bon. Oui,
Et il continue. Sur la griffe, on ne nous annonce jamais à l'avance les procès pour venir vous soutenir. Serait-il possible de nous informer avant? Eh bien, oui.
Oui, cher auditeur, je vous comprends et je vous remercie. Voyez-vous, hurler, gueuler, ce n'est pas ce que nous faisons. Souvent, pourtant, nous manifestons, nous élevons la voix autant que nous le pouvons. Je crois que nous avons des accents d'indignation, tout de même, à cette radio, quelquefois, suffisamment fort. Mais je me bats, pour ma part, sur ce que j'ai appelé le génocide français. Dès 1976, grâce à Jean Madiran, j'ai pu publier un très long article qui a fait l'objet de tirer à part sur le génocide français. Le génocide français continue. Qu'est-ce que c'est que ce génocide? J'ai souvent fait des conférences là-dessus. Faire en sorte que les Français soient de moins en moins chrétiens, faire en sorte qu'ils se sentent de moins en moins français par la destruction de leur mémoire nationale, faire en sorte qu'ils soient de moins en moins nombreux en France par le jeu conjugué de l'avortement et de l'immigration, et finalement, lorsque nous avons un peuple qui a perdu sa mémoire, de moins en moins nombreux, eh ben c'est un peuple que l'on prive peu à peu de son humanité, et c'est contre cela que nous nous battons, que nous nous insurgeons. Alors, le génocide français continue, il n'y a pas d'autre mot, c'est un génocide par substitution, c'est un génocide par toutes les formes très élaborées, en quelque sorte, de la décadence. Nous continuons à nous battre. Pour ce qui est des procès de la GRIF, nous les avons annoncés systématiquement. Hein. Ici même, grâce donc à beaucoup d'émissions de Radio Courtoisie, nous avons annoncé ces procès. Souvent, nous avons vu venir avec plaisir des auditeurs, mais je dois le dire, pas assez. Mais peut-être avons-nous fait insuffisamment notre travail, et je remercie cet auditeur.
Oui, il faut signaler que le site www.agrif.fr est assez régulièrement alimenté et comporte des rendez-vous de cet ordre. Nous en parlons également dans le présent, parce que nous suivons ces procès avec intérêt. Je crois qu'il y a diverses façons de s'informer, et il faut soutenir ces moyens d'information également. Sinon, ils ne continueront pas d'exister longtemps. Alors, j'ai ici un auditeur de Radio Courtoisie qui signale qu'à environ 6 mois, il a entendu M. Borloo dire le terme de sous-chien lors d'un débat télévisé. C'est intéressant, il faudrait avoir les références, voilà. La citation
merci
et
merci à cet auditeur. Eh bien, si j'avais su cela avant, c'est probablement M. Borloo que j'aurais essayé de poursuivre. Mais enfin, Mme Ouria Bouchella a sorti cela surtout de la nécessité de nous rééduquer. Donc il y a un phénomène qui est plus facilement traitable devant les tribunaux.
Un autre auditeur dit ceci. Je veux absolument signaler cette dépêche AFP d'hier. La ministre, Ramayad, souhaite recenser toutes les condamnations pour atteinte aux droits de l'homme prononcées contre la France. Ceci afin d'en finir avec l'arrogance française. Un ministre qui va consacrer tous ses efforts à cracher sur son propre pays, c'est beau. Tous ceux qui ont voté Sarkozy peuvent une nouvelle fois battre des nageoires en signe d'allégresse. Alors ça, c'est donc
si vraiment Madame Rachida Dati a dit cela...
Ramayad, en l'occurrence.
Ramayad, pardon, oui. Si elle l'a dit cela, peut-être... L'a-t-elle dit je n'ose pas croire cela, mais comme j'ai confiance dans cet auditeur, je dois dire que cela nous paraît stupéfiant, et nous allons essayer de voir comment elle a dit cela, dans quel contexte, affaire à suivre.
À propos de Rachida Dati, elle-même, elle met en place des cellules de surveillance de la discrimination dans tous les tribunaux français, suivant cela l'exemple de Charles Pasqua et de son... Oui. Patrick Gobert de l'époque, je crois que là nous sommes dans une logique qui se déploie, qui est constante.
Oui, mais on attendrait de Madame Rachida Dati qu'elle surveille donc la discrimination anti-française. Mais pour l'instant, elle ne semble pas en prendre le chemin. Et c'est là que, évidemment, je suis très dur pour le gouvernement de Monsieur Sarkozy. Tout à l'heure, je disais, voyez-vous combien je ne le suivrai pas tant que je ne suis pas sûr qu'il y a des choses à ne pas dénoncer ou à dénoncer. Mais en l'occurrence, là, nous exprimons, je pense, une bonne indignation française.
Alors, un auditeur de Radio Courtoisie, que Madame Ouria, qui traite les Français de sous-chiens, vienne faire sa repentance à la télé.
C'est ce que j'ai demandé dans le communiqué que j'ai envoyé partout. Hélas, pour l'instant, il a été publié dans le libre journal de Serge Bekech et immédiatement, naturellement, dans présent. Il n'est pas passé dans le Figaro, il n'est pas passé dans Le Monde, ni dans Libération. Je dois dire que certains ou certaines sont mieux accueillis dans certains journaux et dans certaines émissions, peut-être que moi. Je le regrette. J'aimerais que d'autres fassent mieux, peut-être, le travail que nous faisons.
Eh bien, ce même auditeur parle de l'invasion musulmane. Nous ne dirons pas cela parce que nous savons que les tribunaux sont sévères. Cela dit...
Invasion musulmane, c'est une invasion idéologique. Ça ne désigne personne de particulier, aucun individu, aucun groupe. Mais là, c'est quelque chose qui mériterait d'être explicité. Nous n'en prenons pas la personne des musulmans, mais effectivement, à un déferlement d'une idéologie politique, car l'islam c'est une idéologie, c'est un totalitarisme, et je crois que vous vouliez, Jeanne, aborder un sujet.
Oui, du coup on peut passer à quelque chose qui nous a frappé tous. Michel Alliot-Marie dit Le Monde du 7 juillet, ici nous sommes l'émission de la réplique et nous répliquons à ce qui est raconté et dit de stupide ou d'indignant dans les journaux. Michel Alliot-Marie, ministre de l'Intérieur, veut améliorer la formation des imams en France.
Ce qui est d'ailleurs incroyable.
C'est stupéfiant.
parce que c'est bien ce que j'avais dit dans la lettre ouverte que j'avais envoyée à Nicolas Sarkozy quand il a commis l'énorme faute de créer le Conseil français du culte musulman. Vous faites de l'islam une religion d'État. Le cardinal Lustiger, avec lequel je n'ai pas toujours été d'accord, avait d'ailleurs dit cela lui aussi. Il y avait pour une fois une convergence entre nous. Alors là, Michel Alliot-Marie s'occupant de la formation des imams, ça veut dire en effet que désormais il y a une religion d'État. Hein. Alors, et pourquoi elle veut améliorer ? Parce qu'elle constate que un peu partout, en fait, ces imams sont des islamistes. Et ça, c'est quand même très grave, parce qu'on nous avait dit, en construisant des mosquées, on évitera l'islam des caves. Hein, ceci pour dire un islam non contrôlé. Eh bien, on construit les mosquées. Gaudin se félicite qu'il y ait des livres, mais il ne sait pas lire les livres qu'il y a dans les mosquées. Et il y a tout un islam effectivement islamiste qui se propage aujourd'hui, qu'on ne peut combattre justement qu'en ne se trompant pas, comme nous l'avons fait très souvent. Là, je dois dire que la revue Reconquête a toujours été en pointe. Les colloques que nous avons organisés avec René Marchand, avec Richard Haddad, tout cela, nous avons dit, nous sommes en face aujourd'hui d'une idéologie conquérante. Alors, Madame Alliot-Marie voudrait des imams bien bêlants, bien doux. Mais non, elle n'y arrivera pas. Les mosquées se développent et ce n'est pas elle qui les choisira, ces imams. Hein, finalement, elle veut mieux les former. Comme si elle était, elle, une autorité en matière islamique. C'est quand même un gag, cela. Hein, est-ce qu'on n'aura jamais un seul musulman pour croire que c'est Madame Alliot-Marie qui doit dire ce qu'est le bon ou le mauvais islam ?
C'est effectivement une histoire effarante, mais je voudrais signaler aux auditeurs que s'ils veulent voir un soutien, des vrais soutiens, et des bons imams, eh bien qu'ils regardent l'émission qui est diffusée en clair sur Radio, sur Canal+, les samedis, un petit peu après 2h, ça s'appelle « La petite mosquée dans la prairie ». Franchement, c'est très mauvais. Hein. Ça fait un peu d'humour, ça fait beaucoup d'humour et ça ridiculise beaucoup les blancs canadiens qui s'opposent à la construction d'une mosquée dans une petite ville qui s'appelle Merci, justement. Je crois que tout ça n'est pas par hasard. Et ce qui est très frappant également dans cette série, c'est que la mosquée va être construite, va être décorée, va être mise en valeur dans des salles qui sont prêtées par le prêtre catholique de la paroisse. Tout cela est hautement symbolique et je crois qu'il faut regarder au moins une fois cette émission pour voir à quelle sauce humoristique, gentille, drôle une certaine religion veut en avaler une autre.
Merci Jeanne. D'autres questions ?
Alors, une autre question.
Il nous faudra parler peut-être de la Turquie.
Alors, je vous rappelle d'abord que vous écoutez Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel, sur 95,6 MHz à Paris, d'autres fréquences en province et surtout sur Internet. Vous pouvez capter Radio Courtoisie facilement, il suffit de chercher. Une auditrice nous dit un grand merci pour l'émission et ça fait toujours du bien de l'entendre. Et nous continuons notre tour de l'actualité avec peut-être le dossier, le chantier numéro un de Nicolas Sarkozy, bien qu'il ne le présente pas comme cela, c'est l'Europe, c'est l'intégration européenne, c'est bien qu'ils disent le contraire, l'arrivée de la Turquie, encore que l'on puisse peut-être avoir quelque espoir, si nous parlions un peu de cette Europe.
Alors là, d'abord, un commentaire très rapide. Vous avez publié, Jeanne, en présent, le communiqué qu'immédiatement j'ai adressé un peu partout, suite aux élections en Turquie. Les élections en Turquie ont vu le triomphe du parti de la justice et du développement dirigé par M. Erdogan. Ce parti ne s'appelle pas parti islamiste modéré. Les Turcs ignorent totalement cela. C'est toute la presse française, toute la presse, je parle de la grosse presse, hein, qui participe là d'une véritable désinformation. Hein. Ils ont décidé que c'était un parti modéré. Ce n'est pas un parti islamiste modéré, c'est un parti islamiste prudent. Tous les islamistes ne sont pas des Ben Laden, nous l'accordons bien volontiers. C'est un parti intelligent qui doit affronter une réalité, celle d'une constitution laïque de la Turquie depuis le kémalisme, celle d'une armée encore vigilante sur les principes kémalistes de la laïcité, mais cette armée n'est pas, ça me rappelait celle du Shah d'Iran, qu'on disait invincible, qu'on disait à l'abri de l'islamisme, or elle est tout aussi pénétrée de l'intérieur que l'armée du Shah d'Iran. Donc les islamistes qui ont remporté les élections en Turquie, parce que 48% pour le parti de la justice et du développement, plus tous ses alliés nationalistes, c'est considérable. Donc la Turquie est résolument sur la voie islamiste, c'est un pays musulman, un pays asiatique, et si la Turquie, qui est déjà très largement par ses minorités présente en Europe, en Allemagne, en France, en Autriche, un peu partout, si cette Turquie fait partie de l'Union européenne, donc l'on nous dessine, il faut remarquer que ça sera l'État le plus centralisé, le plus peuplé, le plus militarisé. La puissance turque au sein de l'Union européenne sera considérable, car il y a bien davantage de Turcs que de Français ou que d'Allemands. Ces Turcs ne sont pas de notre culture, c'est le moins qu'on puisse dire, et puis ils ont aussi une culture, on le voit bien, très nationaliste. Donc eux, sous le couvert de l'Europe, n'abandonnent pas leur volonté impérialiste. On le voit bien à la façon dont sont traités ceux qui, chez eux, veulent reconnaître le génocide arménien. Ils sont assassinés et on ne se bouscule pas trop pour arrêter les assassins. Alors donc, là aussi, au moins espérons que Nicolas Sarkozy donc appliquera ce qu'il a promis. Je dois dire que je suis quand même un peu sceptique. Ne ferait-il que cela, ça serait un point à mettre à son actif. C'est le dit, pour autant, je ne me rallie pas du tout à l'Union européenne, qui est une catastrophe. Il faut une autre Europe, et pas du tout l'Europe du petit traité qu'il a réussi à vendre. Donc, en bon, comment dirais-je, manipulateur qu'il est, nous voulons, nous, une autre Europe. C'est un sujet que nous avons déjà abordé. Mais sans doute, Olivier Fileras veut-il là émettre quelques réflexions sur ce sujet?
Oui, le petit traité de Nicolas Sarkozy est actuellement en discussion, puisque la conférence intergouvernementale qui doit examiner le projet est actuellement réunie, donc on ne sait pas encore trop ce qu'il sortira exactement de leur discussion. Ce qu'on sait, grosso modo, c'est que il n'y aura pas de surprise, je veux dire pas de bonne surprise. On sait que dans ce traité, grosso modo, ont été repris tout ce qu'il y avait dans la Constitution, dont Nicolas Sarkozy nous a dit qu'il avait bien pris note que les Français ne voulaient plus en entendre parler. Ben, ils n'en entendent plus parler, on ne parle plus de Constitution. C'est simple, c'est très simple. C'est d'ailleurs ce que Madame Angela Merkel, alors qu'elle était encore la présidente tournante de cette Union européenne, avait déclaré à ses collègues. C'est très simple, avait-elle dit. Il suffit simplement de changer les mots et de garder le contenu. Ben, c'est ce que fait Nicolas Sarkozy. Il change les mots, il garde le contenu. Et ce sur quoi actuellement la conférence est en train de réfléchir, c'est la Constitution, sans le mot Constitution, sans le mot drapeau, sans le mot hymne, sans quelques autres mots qui d'ailleurs sont toujours là.
Oui, ce qui ne serait pas mauvais en soi, mais encore une fois, ça n'est que, nous le craignons, ça n'est que subterfuge et apparence.
À propos de cette Europe, il faut quand même rappeler à quel point elle est vecteur de la culture de mort et de tout ce que nous combattons. Et c'est bien pour cela que nous sommes opposés à cette Europe-là. J'ai ici encore une réaction d'auditeur. Il faut attaquer, dit-il, la désinformation selon laquelle la Turquie voudrait rester laïque. Ceci n'est que la séparation de l'islam et de l'État, et n'a pas empêché cet État de réduire de 30% à 1% en un siècle les populations non musulmanes.
Oui, c'est effectivement le fond de l'affaire. Cet auditeur a tout à fait raison. Je voudrais ajouter ceci. Nous avons ici suffisamment dénoncé le génocide arménien et des assyro-chaldéens. Nous nous sommes battus. Bon, nous sommes d'accord avec lui. Ce n'était pas le sujet du jour. Mais là où il a terriblement raison, c'est qu'il y a une véritable désinformation. Parce que, en l'occurrence, l'islam ignore nos catégories laïques et religieuse. Laïcité, c'est un de nos concepts. Ça n'est pas... Alors, Mustafa Kemal, certes, a voulu distinguer l'islam de l'État, mais bon, c'est une tentative qui pratiquement a maintenant échoué. Mais en l'occurrence, les islamistes disent qu'ils sont des laïcs, ils disent nous avons notre laïcité, tout bonnement parce que la distinction n'existe pas dans l'islam. Elle est donc conceptuellement inimaginable pour eux, et donc dire que la Turquie est laïque aujourd'hui, donc c'est à usage extérieur, elle ne pratique qu'une politique, celle de l'islam, et comme je le disais tout à l'heure, cet islam s'avance prudemment, ce n'est pas donc une Turquie ben ladénisée, c'est une Turquie orgueilleuse, sûre d'elle et dominatrice, comme aurait dit, comme avait dit le général de Gaulle, de notre peuple plus petit. Une question, puisqu'on me les amène, nous en recevons vous et moi, Jeanne, Cécile Montmirail n'est plus là, et puis le temps passe, autant de Saddam, les chrétiens n'étaient pas inquiétés en Irak, oui, bien sûr, nous l'avons dit suffisamment ici, je peux porter témoignage qu'étant allé à Bagdad, j'ai entendu autant de Saddam Hussein, toutes les cloches sonner, j'assistais à l'époque, et je ne regrette pas du tout, Jean-Yves Le Pen, pour son œuvre SOS Enfants d'Irak, tout n'était pas parfait, je n'admirais pas, bien sûr, beaucoup le régime de Saddam Hussein, mais enfin, depuis, on a vu que c'était infiniment pire, et hélas, les chrétiens d'Irak, donc aujourd'hui, sont quasiment en voie d'élimination, d'extermination pour beaucoup. Je suis d'ailleurs, je le dis ici, souvent très attristé de ce que dans les églises, celles où je vais le plus souvent, on nous fait de bons sermons sur la vertu, sur le paradis, c'est très bien, mais jamais, jamais rien sur l'église souffrante, l'église martyrisée, et je crois que cela est très grave. Jeanne.
Nous passons à un autre sujet, Bernard, Anthony. Oui. On avait vu la dernière de Sarkozy, c'est d'avoir recruté Jacques Attali au cabinet du Premier ministre. Jacques Attali a accepté de présider la commission sur les freins à la concurrence. Pardon, sur les freins à la croissance. J'ai ma langue à fourcher. Ce qui est quand même très très drôle. Est-ce qu'on pourrait pas rigoler un petit peu?
Oui, je crois que je n'avais pas préparé cela. Il faudrait que je me replonge dans Attali, notamment dans son dictionnaire du 21e siècle, dans lequel il y a des choses très révélatrices. J'en ai traité dans d'autres émissions, mais enfin on peut dire que pour ce qui est de ses prévisions, de ses prophéties, il se trompe à peu près sur tout. Alors, nul doute que Jacques Attali va nous dire qu'il va trouver les moyens de lever les freins à la croissance, mais on peut être sceptique, parce que c'est un imaginatif, c'est un intellectuel, je ne crois pas que ce soit beaucoup un homme du concret. En tout cas, s'il y a bien une croissance qu'il ne veut pas freiner, c'est celle des individus, parce que n'oublions pas, Attali est d'abord un des grands théoriciens de l'euthanasie moderne. Hein, la société moderne entend contrôler l'enfant du berceau à la mort, du berceau lorsque il a réchappé à l'avortement, mais à la mort, Attali dit, et nous avions d'ailleurs beaucoup souffert qu'il soit sur ce plan-là, un peu rejoint par le candidat national lors des dernières élections, il est donc un partisan de l'euthanasie. Or, je ne sais pas s'il considère que cela, que le fait de maintenir en vie, c'est un frein à la croissance. Peut-être va-t-il dire qu'effectivement, trop de vieillards, c'est une charge trop lourde, et qu'il va falloir donc les éliminer le plus rapidement possible pour un bon équilibre de la population et de moindres dépenses de la sécurité sociale. Car c'est ça le raisonnement d'Attali. Et j'ai peur que pour cette mission, dont il paraît a priori sympathique, après tout, pourquoi pas, essayer de faire qu'il n'y ait pas des choses qui freinent la croissance, on est de douloureuses surprises.
Contrairement à vous, Bernard Anthony, je crois que Jacques Attali dit des choses qui... Il donne les lignes de ce que l'on veut faire arriver, même si cela n'arrive pas forcément. Et dans son dernier livre qui s'appelle... Oh zut, le titre m'échappe. Bref, histoire de l'avenir, voilà. Eh bien, Jacques Attali explique comment on va vers une nomadisation des élites, vers une indifférenciation et en même temps vers un égoïsme organisé, vers une société où les enfants ne seront pas élevés par leurs parents parce que leurs parents auront autre chose à faire. Eh bien, tout cela, je crois que d'une certaine façon, il l'attend et il le souhaite. Et c'est pour ça que je prends assez au sérieux ce qu'il raconte, même si c'est assez baroque. l'époque. Et je voudrais signaler que le Salon Beige, qui est un excellent site d'information sur Internet, rappelle ce que Jacques Attali avait écrit lui-même. Il avait écrit en 81 dans la médecine en accusation. On pourrait accepter l'idée d'allongement de l'espérance de vie à condition de rendre les vieux solvables et créer ainsi un marché. Je suis pour ma part, écrit Jacques Attali, en tant que socialiste, objectivement contre l'allongement de la vie, parce que c'est un leurre, un faux problème. L'euthanasie sera un des instruments essentiels de nos sociétés futures dans tous les cas de figure. Nous avons donc la citation. Oui. Nous avons Attali au gouvernement, tout baigne et nous sommes
et
dans le...
Je crois que cela rejoint ses propos extraordinaires dans le dictionnaire du 21e siècle, où il disait que l'humanité, peu à peu, se diviserait entre une partie nomade, intelligente, donc qui n'aurait pas de patrie, pas d'enracinement, donc et les sédentaires. Alors il en faut bien ces sédentaires. Ce sont en quelque sorte les sous-chiens, les bêta-moins. On rejoint là le meilleur des mondes. Et voyez-vous, j'avais une question aussi qui me demandait, parlez-nous de l'unité nationale. Ben oui, on n'a fait que parler de cela ce soir. Parce que quel est notre combat ? Notre combat consiste à vouloir refaire naître ce malheureux pays, ce peuple qui est méprisé, humilié. Aldous Huxley avait parfaitement vu cela, George Orwell aussi. On veut diviser notre humanité au fond sous couvert de socialisme entre une fausse aristocratie, une élite dominatrice et un petit peuple qui ne mérite que le mépris. Alors je crois que Ouria Boutadja, elle a finalement rendu un grand service. Elle nous a baptisé les sous-chiens. Eh bien, oui, ce soir, peut-être, nous annonçons la révolte des sous-chiens.
Alors, lisez Reconquête, adhérez à Les Griffes, lisez Présent. Eh bien, soutenez cette presse libre, soutenez Radio Courtoisie. C'est ainsi que les sous-chiens pourront se faire entendre.
Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonnes vacances. Nous aurons besoin de force à la rentrée.
Bonsoir chers auditeurs, ravi de vous retrouver pour ces chroniques de la vieille Europe, émission hébergée en deuxième partie du libre journal de Serge de Bekech. Alors comme dans les usines il y a les équipes de jour, les équipes de nuit, bah là dans notre émission il y a l'équipe de juillet puis il y a l'équipe du mois d'août. Et donc nous avons une équipe, puisque des six chroniqueurs habituels nous ne sommes que trois, les meilleurs diront les auditeurs, enfin on verra en fin d'émission. Donc Patrick PL et Lucien Valdès, vous êtes avec moi ce soir, et donc tous les trois, nous allons maintenir le flambeau des chroniques de la vieille Europe en excusant les vacanciers du mois de juillet, que sont donc Grégoire Gambier, Xavier Van Lierd et Olivier Lebrun, qui sont partis sous des horizons divers. Je sais pas où ils sont à vrai dire, mais j'imagine qu'ils ont dû choisir comme à l'accoutumée les pays exotiques qu'ils affectionnent tout particulièrement. Alors, cette première demi-heure, pas de raison de déroger à la norme, sera consacrée aux différentes brèves de l'actualité géopolitique européenne. Et puis, il n'en manque pas aujourd'hui, depuis presque ce mois et demi que nous ne nous sommes pas revus. Nous consacrerons notre deuxième demi-heure sur un thème un peu particulier que Lucien Valdès nous a fait l'amitié de défricher un peu pour nous, qui est ce thème de la mémoire. Alors s'il y a bien un thème qu'il est pourtant usuel d'évoquer sur tous les médias, c'est bien celui de la mémoire, et donc on va le faire nous aussi. Alors on va se focaliser quand même, se concentrer plutôt sur la mémoire européenne, et on essaiera de voir quelle est la différence entre la mémoire de l'Ouest et la mémoire de l'Est, puisque c'est bien un terrain sur lequel il se passe beaucoup de choses. Et puis nous garderons bien évidemment notre troisième demi-heure, pour ne pas décevoir les auditeurs qui attendent cela avec impatience, nous garderons cette troisième demi-heure pour la chronique culturelle de notre ami Patrick.
Patrick, je propose d'ailleurs que vous ouvriez le bal, puisque vous nous ramenez des nouvelles d'outre-Quiévrin, ou en tout cas de ce plat pays belge, wallon, flamand. Enfin, c'est visiblement assez confus, ce que vous confirmez.
C'est vrai que la Belgique, il y a eu des élections il y a à peine un mois, le 10 juin, mais personne quasiment en a parlé. Effectivement, l'élection française était peut-être plus intéressante pour les Français eux-mêmes. Mais là, la Belgique, à chaque fois, nous fait certains gags. Et j'avoue qu'on apprend une chose, c'est quand même le futur Premier ministre, parce qu'il n'a pas été encore nommé par le roi, Yves Le Terne, devait nous chanter la Brabanson. Je sais pas si, Philippe, vous connaissiez l'hymne belge.
Non.
Et ben Yves Le Terne non plus. Alors tout le monde en a parlé, parce que on avait l'impression que c'était vraiment un gag belge dans toute sa splendeur. Yves Le Terne a commencé en chantant la Brabanson en disant simplement « Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé ». Alors, pour les francophones, ils ont pensé que c'était encore un gag ou une gaffe. Même les journaux français comme Le Monde a parlé de la gaffe du futur Premier ministre belge. Mais pour beaucoup, c'est peut-être plus une provocation de sa part vis-à-vis des francophones. Alors, on a décidé, c'est vrai que la Belgique, c'est un pays qui est un peu compliqué, donc j'ai essayé de me renseigner un peu sur leur système politique, et j'avoue que, sincèrement, j'ai toujours rien compris. Je vais essayer un peu de vous résumer cette élection du 10 juin, qui a amené que le futur prochain Premier ministre Yves Le Terne à la tête de l'État. Alors, il faut savoir qu'ils ont un Sénat, vous allez voir, je vais faire un beau tunnel, parce que c'est quand même très compliqué.
Avant le tunnel, et pour que nos auditeurs ne soit pas perdu, contrairement à ce que son nom indique, Yves Le Terne est un flamand.
Est un flamand, oui.
Et puisque vous savez qu'il est de tradition en Belgique que le Premier ministre soit flamand. Et donc le Premier ministre est le représentant flamand du courant politique qui a gagné les élections.
Voilà.
Et donc Yves Le Terne est effectivement le représentant des libéraux, on va dire, pour simplifier, du centre droit flamand. Et Yves Le Terne s'était déjà largement illustré en pleine campagne électorale, il y a quelques mois de cela, par une interview donnée dans Libération, le Libération français, si j'ose dire, dans lequel il ne s'était pas gêné pour vitupérer la fainéantise des Wallons et le fait que la Wallonie est très à la traîne économiquement. Et donc, ce qui est assez intéressant, c'est que à l'époque, on s'était dit, c'est probablement un abus de langage destiné à ramener vers Le Terne les électeurs du Vlaams. Rappelons-le, fait là encore un excellent score, même si comptablement ils ont perdu un siège, mais ils ont maintenu un nombre de voix, c'est par contre le mystère du suffrage. Et donc visiblement, alors qu'il est à peu près certain d'être intronisé par le roi des Belges comme futur premier ministre du royaume, et bien le terme continue. Électoral. Donc, semble-t-il que ce flamand au nom français n'a envie de provoquer les Wallons.
C'est un tout petit peu leur stratégie à eux, quelque part. Ils ont voulu brasser l'électorat le plus large. Donc, alors, cette Belgique, qui est peut-être l'un des pays les plus compliqués sur le plan de sa constitution, il faut savoir qu'il y a là un Sénat. Vous allez voir, c'est extraordinaire. Là, un Sénat qui est composé de 74 sénateurs. Alors, il y a 40 sénateurs qui sont élus directement, dont 25 sénateurs élus par le collège. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, vous avez... le collège francophone. Vous avez 21 qui sont élus par les parlements des communautés flamandes. Là, déjà, c'est déjà compliqué. Donc, ça représente 10 sénateurs. Pareil pour le côté wallon, il y a 10 sénateurs, il y a un germanophone, un sénateur.
Ce sont les minorités d'Oipen et de Malmedy.
Et on retrouve 10 sénateurs qui, eux, ne sont pas élus, sont cooptés. Il y en a 6 qui sont désignés par les 35 sénateurs flamands, déjà repris, et 4 désignés par les 25 sénateurs francophones, déjà repris. Et enfin, les 3 enfants du roi, Albert II de Belgique, sont considérés comme sénateurs de droit. Alors, j'ai pas été jusqu'au bout. S'il avait eu 4 enfants, je sais pas s'il y aurait eu 4 sénateurs. J'en sais rien. Mais donc, c'est vrai qu'ils se sont dit en Belgique qu'il fallait peut-être changer ce système-là. Alors, le plus absurde, c'est par exemple au niveau fédéral, que ce soit pour le Parlement ou pour le Sénat, un candidat est soit inscrit dans un arrondissement flamand, soit dans un arrondissement francophone. Excepté le cas de Bruxelles, qui est mixte. Donc, un ministre ou un député belge n'est donc responsable de ses actes que devant sa communauté. Alors en 2007, par exemple, Guy Verhofstadt, voilà. Je suis pas très bien. Ça c'est clair. A par exemple débuté sa campagne électorale en éditant un livre résumant ses 8 ministres. Mais le dit livre est uniquement édité en néerlandais et est disponible seulement en Flandre et à Bruxelles. Ainsi, même un candidat premier ministre peut tenter de faire campagne électorale dans l'autre communauté, puisqu'il est élu par sa communauté, puisque ses électeurs ne peuvent de toute façon pas voter pour lui. Donc une partie du pays, il s'en fout complètement. Or, s'il est élu, il sera Premier ministre de tous les Belges. Et là, c'est là qu'on s'aperçoit qu'en fait, les Belges, dans cette campagne, se sont beaucoup plus intéressés à la campagne française. Et on comprend très bien le futur Premier ministre, le futur Premier ministre de la Belgique, qui considère simplement que cette façon de voter cette constitution belge est devenue une absurdité totale. Et on commence peut-être à entendre un peu plus ces fameux discours de partis d'extrême droite, comme on dit chez nous, qui dénoncent ce système farfelu depuis des années. Et on avait déjà reçu, si je me souviens bien,
un représentant
qui nous avait expliqué ça. Donc voilà un peu le dernier gag belge. Je trouvais ça marrant d'expliquer un peu leur constitution, leur façon de voter.
Lucien Valdès.
Oui, je voudrais rajouter que les journalistes de la RTBF sont assez coutumiers de ces blagues belges, puisque l'une des dernières de leurs dernières blagues avait été d'annoncer la fracture du peuple lors d'une émission qui avait fait particulièrement hurler de rire la Belgique tout entière cette fois-ci.
Ah oui, c'est un pays particulier. On a presque envie d'y vivre quand on vous entend. Alors, autre sujet. Légèrement, mais pas vraiment beaucoup plus, légèrement plus sérieux pour l'avenir du monde. Mais qu'y a-t-il vraiment, en fait, de plus sérieux que le système institutionnel belge? Vous savez que nous avons coutume dans cette émission de faire écho ou donner quelques analyses sur ce nouvel affrontement entre la Russie et les États-Unis. Et Dieu sait si les dernières semaines et les derniers mois n'ont pas été avares de sujets de tension. Et puis aujourd'hui est un jour important, puisque c'est aujourd'hui que se rencontrent à Bruxelles les pays de l'OTAN et la Russie dans le cadre de ce Conseil restreint OTAN-Russie qui fonctionne maintenant depuis quelques années. Alors, bien évidemment, donc je rappelle nos auditeurs qui ont suivi les opérations, c'est que on est toujours dans la crise issue de la volonté de Washington d'implanter sur le sol européen, en Tchéquie et en Pologne, un bouclier antimissile qui prétendument protégerait l'Europe d'une agression nucléaire iranienne ou nord-coréenne. Alors que, vu de Moscou, c'est un surarmement dans une zone où il était convenu de ne pas surarmer, qu'on soit de l'Est ou qu'on soit de l'Ouest. Entre-temps, au G8 qui s'est tenu en Allemagne, Vladimir Poutine avait fait une offre concurrente sur le thème « puisque vous voulez lutter contre le terrorisme, pas de problème, mais plutôt que d'installer une base » en Pologne ou en Tchéquie, installons-la sur le flanc sud-est asiatique de la Russie, puisque à la fois vous serez plus près et vous serez plus précis. Et puis, cette proposition très habile ayant été bien évidemment refusée par Washington, qui a bien été obligée de jeter le masque et de montrer quelles sont les visées atlantistes de ce dispositif, eh bien la Russie est allée un cran plus loin, puisque la Russie, vous le savez, il y a le 13 juillet, la Russie a suspendu sa participation au traité, le fameux TFCE, qui est le traité sur les forces conventionnelles en Europe. Alors je rappelle ce qu'est le TFCE, puisque Lucien et Patrick, vous le connaissez, vous savez très bien, mais nos auditeurs peut-être l'ignorent encore. Le principe de ce traité, c'était de plafonner les forces armées classiques des deux anciens blocs en Europe. C'est un traité qui a été signé en 1990 à Paris, et qui a été révisé en 1999 à Istanbul pour tenir compte de la disparition, entre-temps, de l'URSS et du pacte de Varsovie. Et donc le principe du TFCE, c'est de dire statu quo sur les forces conventionnelles, puisque les deux autres éléments sur lesquels il y avait un équilibre à trouver, c'était le nucléaire, une autre série de traités, et le spatial, c'est une autre série de traités. Entre-temps,
s'est passé un certain nombre de choses. C'est que, à la fois, la Russie estime que l'OTAN, en s'élargissant jusqu'à ses frontières, jusqu'aux frontières de la Russie, notamment avec les pays baltes, sans parler des velléités de Géorgie et d'Ukraine, a bouleversé à ses dépens les données militaires sur le vieux continent, et que l'OTAN, quant à elle, considère que la Russie n'a pas retiré ses troupes de Géorgie et de Moldavie, ancienne république de la CEI ex-URSS, et qu'en ce sens, elle n'a pas honoré ses engagements d'Istanbul. Et donc, on est depuis longtemps sur un chaud et le froid, et un chaud et froid, sur cet équilibre, et personne n'attend d'ailleurs de décision particulièrement concrète ou emblématique à ce sommet. La Russie a donné 5 mois aux Occidentaux pour se rendre acceptable aux deux parties. Ce que joue la Russie très clairement, c'est la division des Européens dans la crise du bouclier. Alors, est-ce que cette division va venir? Il y a au moins un truc qui est rigolo, c'est que les principaux alliés de Washington, comme toujours, sont les Polonais et les Tchèques. Sauf que les Polonais viennent de comprendre, visiblement c'est comme les contrats d'assurance, et on lit pas toujours les trucs en bas de page. Et alors, et les Polonais, ils étaient persuadés que tout ça c'était très bien, que ça allait bien se passer, c'était parfait pour pouvoir embêter les Russes. Et d'ailleurs, les analystes militaires polonais disaient le scénario d'un assaut militaire russe via la Biélorussie et la Lituanie est toujours d'actualité. Nous avons besoin du parapluie de l'OTAN. Sauf que les États-Unis, qui sont un petit peu courts, à court d'argent avec ce que leur coûte la guerre en Irak, le Washington a invité cordialement la Pologne à prendre en charge une partie de la note de frais, de la base antimissile. Alors, je cite, l'addition comprend les frais de construction et d'exploitation, les impôts locaux, les indemnités pour accidents de la route que seront provoqués par les militaires américains hors de la base. Donc ça, c'est budgété, déjà. Je sais pas si c'est comme au Japon, s'il y aura des viols d'écolières, mais c'est pas marqué.
C'est l'expérience italienne aussi.
Voilà, l'expérience italienne, probablement. La protection des installations militaires par les forces polonaises. Et donc, Varsovie, comme d'habitude, dès qu'on lui soumet quelque chose, répond « les conditions sont inacceptables ». C'est à peu près le seul langage que connaissent Varsovie en ce moment. Si les Américains n'améliorent pas leur offre, il n'y aura pas de bouclier antimissile. Donc les Américains et les Polonais, pour l'instant, se font la grimace. Comme assez souvent, très probablement, c'est Washington qui va gagner, puisque la Pologne est relativement isolée et que entre payer pour Washington et ne pas payer et refaire à Miami avec Moscou, je pense que nos amis polonais ne vont pas choisir longtemps. On se rappelle d'ailleurs qu'à l'époque des Mirages, il y avait déjà eu un accord entre la Pologne et Washington pour que la Pologne fasse le choix d'acheter les avions américains moyennant des investissements directs américains en Europe, que le chèque pour les avions a bien été fait, que les investissements directs ne sont toujours pas là. Et donc, ma foi, eh bien, les Polonais, comme d'habitude, trouveront un sujet pour couiner. Mais en tout cas, du radar américain. Peu de gens ont, et j'en termine là-dessus, peu de gens ont relevé que la proposition faite par Vladimir Poutine le 7 juin au G8 d'ouvrir la station radar russe de Gabala en Azerbaïdjan pour développer la défense américaine plutôt que de la faire en Tchéquie avait également un enjeu qui avait été saisi par les militaires américains. L'agence, je vais le dire en anglais, l'US Missile Defense Agency, qui, elle, cherchait un emplacement de station radar mobile dans le Caucase du Sud pour surveiller non pas l'Iran, non pas la Corée du Nord, mais la Chine. Et donc, ils étaient bien contents de cette offre-là, mais donc ça a tangué un petit peu entre les politiques et les militaires, puisque, bien évidemment, George Bush n'a pas donné suite à la proposition russe du Caucase. Vous vouliez rebondir, Lucien Valdès? Non, pas du tout.
Non, mais par contre, il y a un auditeur qui y a un message justement sur le bouclier antimissile. Cette personne nous dit, ces antimissiles dirigés contre la Russie, c'est l'affaire des fusées de Cuba à l'envers. Et cet auditeur nous dit, Moscou se mordra les doigts de ne pas avoir vu le vrai but de la guerre contre les Serbes au Kosovo. La base d'attaque contre les Russes va être au Kosovo.
Alors autant je crois qu'on peut tout à fait être d'accord avec notre auditeur
sur la première partie de son propos, autant je crois qu'il est fort injuste sur la seconde. Je rappelle que, d'abord pour parler de l'actualité la plus neuve, aujourd'hui la résolution de l'ONU a été écrite, réécrite, elle est bouclée dans tous les sens. Tout le monde est d'accord pour que le Côte d'Ivoire ait son indépendance. La résolution ne passe pas à l'ONU pour une seule raison, c'est que la Russie continue à mettre son veto et que le Kosovo fait partie des sujets chauds entre le monde atlantique et la Russie. Et donc la Russie est totalement, me semble-t-il, totalement consciente du risque pour elle d'un Kosovo indépendant, et elle est le seul pays, la seule puissance qui continue bec et ongle à défendre les Serbes. Et je rappelle qu'il y a, alors je ne saurais pas citer la date, mais rappelez-vous, pendant ce conflit du Kosovo, où c'était à l'époque sous Yeltsin, et donc je pense que ça doit dater de 1998, où nuitamment, un général russe avait fait franchir le fleuve qui cantonnait son détachement pour rentrer dans la partie serbe du Kosovo, qui venait d'être ouverte aux forces interalliées, et donc pour sécuriser justement, alors le général a été évidemment d'abord sanctionné, puisque les Russes avaient dit, bah oui, ce général a désobéi, c'est horrible. Et puis finalement, les troupes russes sont restées là où elles sont. Donc je crois, pour reprendre le propos de notre auditeur, qu'il est un peu sévère sur le fait que la Russie se laisse déborder sur le terrain du Kosovo.
Voilà, autrement, il y avait un autre message qui était sur la Belgique. Cet auditeur nous dit, la chambre haute belge n'est pas plus complexe que les équivalents britanniques ou l'Allemagne fédérale. Je sais pas, vous avez un commentaire. Il y a peut-être pas le problème linguistique et le problème.
Oui, je crois que là encore, on se permettra de ne pas être totalement d'accord avec notre auditeur. Je crois que le système, système britannique. Je suis pas un expert, hein, mais le système britannique. D'abord, il est en profonde rénovation, puisque il me semble qu'une des dernières réformes votées par Tony Blair, c'est d'avoir mis fin. Lucien Valdez, vous confirmez
sur la Chambre des Lords, vous voulez parler.
C'est d'avoir mis fin à la permanence,
la Chambre des Lords.
La Chambre des Lords, voilà, qui n'est plus héréditaire.
N'est plus héréditaire.
Et s'agissant du système de l'Allemagne fédérale, donc entre le Bundestag, le Bundesrat et les régions, on est sur un système qui fonctionne sans accroc. Et je crois que la grande différence entre le système allemand et le système belge, c'est la différence des communautés linguistiques. Qui n'existe pas. Paradoxalement d'ailleurs, le système suisse, système fédéral suisse, se tire beaucoup mieux des difficultés linguistiques que le système fédéral belge. Rappelons, hein, pour les auditeurs, on l'a dit, qu'il y a la Flandre néerlandophone, il y a la Wallonie francophone, et le cas spécifique de Bruxelles, puisque Bruxelles est une région flamande de langue française.
Oui. Peut-être m'attirer les foudres de certains auditeurs, mais la Belgique a été un pays qui a été inventé.
Absolument. La Belgique, c'est comme l'Ukraine, ça n'existe pas. Enfin, la Belgique, ça existe depuis 1830, de mémoire. Et l'Ukraine, n'en déplaise à l'excellent Benoît Méchain, l'Ukraine n'a pas été indépendante très longtemps, si ce n'est depuis la construction américaine dans le Sud-Caucase. Alors, il y a un élément aussi que je voulais citer, parce que ça fait partie des choses que ce serait intéressant de voir dans la presse française et qu'on n'a pas du tout non plus, c'est que toujours sur le bouclier antimissile, et puis peut-être on changera de sujet, c'est que le bouclier antimissile fait des remous à Pékin, figurez-vous. Pourquoi à Pékin, qui eux ne sont absolument pas concernés directement, si ce n'est qu'ils sont observateurs d'un bras de fer stratégique entre la Russie et l'Europe et vis-à-vis face aux États-Unis, et c'est qu'en fait il y a deux politiques à Pékin, puisque une partie des dirigeants chinois, notamment les militaires, estiment qu'on doit durcir le ton contre l'impudence américaine qui consiste à mettre des nouvelles armes partout, et donc la contestation du dispositif américain que les Russes font en Europe de l'Est, elle doit être également faite sur le dispositif américain au Japon, en Corée ou à Taïwan, bien évidemment. En revanche, du côté des politiques, on estime que la Chine aurait tout à fait à gagner à jouer les intercesseurs entre Russes et Américains comme d'ailleurs la Chine le fait en Asie centrale dans l'organisation de coopération de Shanghai dont nous avions déjà beaucoup parlé, ou d'ailleurs dans la crise nucléaire nord-coréenne où là cette fois-ci la Chine joue les médiateurs au bénéfice des Américains et pour le compte des Nord-Coréens. Et donc c'est intéressant parce que du coup ça a pour conséquence une intensification des coopérations militaires entre les deux pays, Russie et Chine, sous couvert bien évidemment de coopération antiterroriste, d'amélioration du mécanisme de consultation entre les deux armées. Et donc, les étoiles montantes des deux armées russes et chinoises se sont rencontrées sur le sujet. Et c'est assez intéressant de voir quelles sont
les permanences géopolitiques.
Les permanences géopolitiques, d'une part, et puis les dégâts collatéraux, les manœuvres collatérales de cet élément-là. Patrick PL.
Bah, un petit mot sur la Turquie quand même.
La Turquie, ah oui.
Eux aussi ont eu leurs élections. Alors, c'est incroyable parce que Erdogan, bien sûr, a confirmé sa victoire. Il perd en fait très peu de députés. Il en perd exactement 23 sur l'ancienne chambre, sur l'ancien parlement turc. Ça a été vraiment un concert de louanges de Bruxelles jusqu'à Barroso. Alors Bruxelles qui dit que l'AKP c'est l'équivalent d'un parti chrétien démocrate. Là-dessus on reste sur la même ligne. Barroso c'est le grand défenseur de la candidature, que ça on le sait, qui a félicité hier le Premier ministre turc. Donc on est toujours dans la même ligne. Alors il y a une chose que quasiment peu d'observateurs ont vu, c'est que par rapport à l'ancienne chambre où il y avait en fait un bipartisme entre l'AKP qui est le parti de la justice et du développement.
Vous n'allez pas nous décrire le système institutionnel
non,
turc.
Non. J'avoue, franchement, ça ne m'intéresse pas. Étant européen, c'est vrai que c'est pas un pays qui m'intéresse beaucoup. Et le parti républicain du peuple, qui lui, effectivement, a perdu, il n'y avait que deux partis. Et on a vu arriver un parti, c'est le parti de l'Action nationale, alors rien qu'avec un nom comme ça, à mon avis, ça va être un parti très dangereux, qui a quand même... une partie du parti du CHP et on va dire que les indépendants et les Kurdes ont quand même 24 députés. Donc on est bien chez Erdogan sur cette ouverture des minorités que demande Bruxelles et c'est un dossier qui, comme de toute façon il a le soutien de l'Europe, que ça soit sur la laïcité, les réformes et la question kurde, je pense qu'Erdogan va après ces deux ans où il avait quasiment orienté sa plan en réforme, va repartir vers l'Europe. Et de toute façon, Bruxelles est en train de le soutenir complètement sur cette question.
C'est quoi qu'en face, Nicolas Sarkozy?
Enfin, franchement, là on s'aperçoit que le poids de Nicolas Sarkozy est quasiment nul au niveau de l'Europe, vu que ça soit la Suède, la Grande-Bretagne a félicité Monsieur Erdogan et sont pour la reprise des négociations avec la Turquie.
Ah, Monsieur Sarkozy est très actif pour les infirmières bulgares. Demain, il s'occupera d'Ingrid Betancourt et on le donne gagnant pour la libération des derniers Sud-Coréens dans les montagnes de Tora Bora.
Est-ce que vous pensez qu'il va envoyer sa femme dans la jungle colombienne pour aller chercher
pour un échange?
Ah, remarqué.
Mais pour revenir sur la Turquie, on avait eu une discussion assez animée avec notre ami Xavier Van Mier de... Aujourd'hui, ce pays-là, cette mouvance-là est considérée comme la plus opposée aux valeurs de ce qu'est devenu l'Europe, parce qu'aujourd'hui c'est l'Europe de Bruxelles, et que, à contrario, c'est le parti islamiste dit modéré, qui devient grosso modo le parti social-démocrate, d'aucuns l'ont même appelé un équivalent de démocrate chrétien, libéral, et prêt demain, moyennant quelques ajustements, à adhérer à l'espèce de corpus de valeurs, de prétendues valeurs de l'Union européenne. C'est-à-dire que on assiste à un renversement complet de situation, et ce que disait Xavier Van Lien était assez exact, c'est-à-dire que demain, en cas de raidissement de la partie militaro-laïque de la Turquie, on va voir les pays européens venir au secours de ce parti islamiste modéré qui doit, sous cap, bien s'amuser de la situation.
Bah, c'est surtout que les marchés sont très contents parce que comme c'est la grande idée d'Erdogan, c'est qu'il est libéral et cette économie de marché il va continuer à la mettre en place. Bien sûr, Bruxelles, ça rassure ses engagements avec les atlantistes, rassure tout le monde. Donc forcément, il rentre comme dans du beurre dans ce système européen qui, de toute façon, politiquement, n'a strictement rien à dire à part cette histoire de marché libéral.
Alors, merci Patrick Péel. Nous arrivons au terme de notre première demi-heure. Et donc, nous allons faire une courte pause musicale avant de donner la parole à Lucien Valdès qui ronge son frein depuis une bonne dizaine de minutes. Bien, nous nous retrouvons, chers auditeurs, dans ces chroniques de la vieille Europe, émission émergée en deuxième partie du libre journal de Serge de Bekech. Et Lucien Valdès, on va donc passer une demi-heure ensemble sur un thème que vous avez défriché pour nous, et on vous en remercie, et qui est le thème de la mémoire. On a eu l'occasion, dans nos précédentes émissions, d'évoquer un certain nombre de raidissements, parfois pas très compréhensibles, mais... qui opposait la Russie à certains pays d'Europe. Le dernier en date, si je ne m'abuse, c'est cette polémique en Estonie entre le déplacement du monument aux morts en hommage aux soldats soviétiques libérateurs qui, en pleine place centrale de Tallinn, faisait tâche et était évidemment bien moins honoré que quand l'Estonie faisait partie de l'Union soviétique. Et donc le régime, à la fois pour... maintenir l'ordre public et puis pour éviter les dégradations sans cesse a décidé de déplacer ce monument dans un cimetière militaire à l'écart de la ville et la Russie a... dans ses négociations avec l'Union Européenne.
Et alors que la Russie le fait pour ses propres monuments à l'intérieur de ses villes elles-mêmes. Donc c'est doublement contre-productif.
Doublement contre-productif. Et donc, en échangeant sur ces émissions, vous aviez soulevé l'idée de traiter effectivement de cette notion de mémoire européenne, mémoire des conflits, mémoire des affrontements, et parce que justement il y a entre l'Ouest et l'Est des perceptions de cette mémoire qui sont très différentes. Donc il y a une différence, et puis il y a aussi un point commun qui est que la saison est quand même à la repentance. Destruction des monuments, réparation, réconciliation, commission bilatérale, enfin bref, l'Europe ne sait plus quoi inventer pour battre sa coulpe. Alors est-ce que c'est simplement la maladie qui a touché l'Europe de l'Est, ou est-ce qu'il y a une perception de la mémoire et un moment historique qui fait que non, ce sont deux choses qui sont très différentes.
Je crois que les auditeurs, ça n'aura pas échappé aux auditeurs. Depuis quelques années, on assiste donc à une explosion de ces batailles mémorielles, donc entre certains pays, notamment d'Europe, le premier rang desquels, donc le Tchèque ou encore la Hongrie. Alors, cela peut prendre l'allure d'un véritable raid d'agir propre. Le 7 mars 2005, les eurodéputés polonais demandent au président du Parlement européen, Josep Borrell, de commémorer par une minute de silence le massacre des officiers polonais à Katyn par l'armée rouge sur ordre de Poland. Ce jour-là, les députés observent déjà une minute de silence pour les victimes de l'attentat de Madrid. On voit bien par là l'explosion de minutes de silence, l'explosion... la demande polonaise est donc rejetée. Stupeur, réaction du représentant polonais qui s'insurge, qui déclare « Il faut éduquer l'Europe occidentale, nous ne pouvons tolérer cette amnésie historique ». Et tous les députés des anciens pays de l'Est, quel que soit leur groupe politique, réclament un débat. Nous voulons rappeler que la défaite de l'Allemagne nazie a signifié le début de l'occupation communiste pour une partie du continent européen. On voit là bien la différence de mémoire entre la partie Ouest et la partie Est. On peut approuver les propos du représentant polonais, mais cet épisode, comme je l'indiquais, prouve donc une fois de plus qu'entre la vieille et la nouvelle Europe, un rideau de fer mémoriel persiste encore et toujours. Pour prendre un autre exemple, on a vu un premier ministre. Zenan traitait les Allemands des Sudètes de cinquième colonne, installés au cœur du pays. Et on pourrait comme ça multiplier les exemples de ces batailles entre l'Allemagne et la République tchèque, entre la Pologne et l'Ukraine, entre la Pologne et la Russie, même entre l'Italie et la Slovénie, avec Trieste.
On pourrait vous objecter, Lucien Vallès, que est-ce qu'il y a véritablement une différence de perception de mémoire? Ou est-ce que tout simplement on a un personnel politique au Parlement européen ou ailleurs qui est encore très marqué par sa complicité idéologique historique avec le régime communiste et qui a du mal à franchir le Rubicon?
Justement, Philippe Christel, sur ce propos, je crois qu'on a du mal à voir à l'Ouest si, bien sûr, les pays occidentaux ont été contre le communisme. Elles n'ont pas été, pendant toute cette guerre froide, d'une aide énorme vis-à-vis de l'Est. Et pour un Polonais, pour un Hongrois, la seule personne qui l'a aidé, ce sont les États-Unis, c'est les USA qui ont financé des campagnes. Et on le voit bien encore maintenant, financer des campagnes ukrainiennes contre la Russie. Du côté de la France, de l'Angleterre ou de l'Allemagne ou de l'Italie, ces pays-là en fait avaient une sorte de neutralité vis-à-vis, prenons la politique de Gaulle pendant cette période où il a quand même été pro-soviétique à ce moment-là, donc la mémoire n'est pas du tout la même. Je pense que du côté de l'Ouest, on ne s'intéressait pas beaucoup à ce qui se passait derrière le rideau de fer.
Alors, pour bien comprendre en fait la nature profonde de la construction européenne, c'est-à-dire la mentalité de l'Ouest, je résiste pas moi au plaisir de vous faire partager un débat sur l'essence de l'Europe, sur ce qu'est l'Europe. Entre d'une part le nouveau converti, vous savez l'écrivain Jean-Claude Guillebeau, un journaliste au Nouvel Observateur, auteur d'un épouvantable « Comment je suis redevenu chrétien » et le philosophe Alain Finkielkraut. Alors pour le premier, Guillebeau, l'essence de la mémoire européenne est condensée dans ce qu'il appelle l'hitlérocentrisme. Ce sont ses propres mots. Notre boussole ontologique désigne métaphoriquement, accrochez-vous, désigne métaphoriquement le Nord, c'est-à-dire la direction du mal absolu. Et donc, une pensée catho de gauche qui a fait bien sûr bondir Alain Finkielkraut, et pour lui, cette espèce de criminocentrisme, parce qu'il reprend les mêmes mots, hein, les mêmes mots compliqués, exacerbé, conduit l'Europe à n'habiter que son présent. Et là où ça devient intéressant, il indique « Le passé n'est plus une ressource, c'est désormais un repoussoir. Il faut donc dénoncer cette Europe qui, ne pouvant plus se définir historiquement, se définit par le droit, c'est-à-dire par des normes juridiques et des normes morales. » Entre parenthèses, vous aurez noté que le discours de Finkielkraut n'hésite plus à emprunter la syntaxe et le vocabulaire de Dominique Vénère. C'est assez rigolo. Reste que Alain Finkielkraut.
Vous pensez sincèrement que Alain Finkielkraut a lu Dominique Vénère ou
il y a certaines
où il écoute peut-être les émissions où il écoute peut-être les musique. Il écoute peut-être les émissions de Radio Courtoisie.
Peut-être. Donc
Alain, si tu nous écoutes, voilà.
Reste que Alain Finkielkraut a raison. Que penser donc de cette maison commune européenne conçue dans le rejet du passé invariablement douloureux?
Que penser, bien sûr, et là je vous rejoins Patrick Péel, de l'élargissement de cette de la communauté européenne, hein, vécue comme le remboursement d'une dette, de la dette historique, c'est-à-dire celle de la trahison de Yalta. Il faut avoir entendu hein, les anciens dissidents comme le Polonais Borislav Geremek ou encore le Václav Havel rappeler la dette de l'Ouest vis-à-vis de l'Est pour augmenter la pression en fait, la pression sur l'Union européenne. Ils ont bien compris, ils ont bien compris que les ressorts psychologiques des hommes politiques européens que ces ressorts psychologiques agissaient sur sur la victimisation, la reconnaissance de la victimisation. Ça, ils l'ont bien compris.
Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que les registres qui ont fonctionné pour culpabiliser l'Européen riche ressorts qui ont été utilisés pour toutes les logiques de décolonisation. Notamment, en gros, nous devons, de manière imprescriptible, nous sommes monstrueuses parce que blablabla. Aujourd'hui, on est en train d'utiliser les mêmes ressorts qui est que ce soit à Munich en 38 ou à Yalta ou à Budapest en 56 ou à Prague en 68, que sais-je, et pourquoi pas à Gdansk en 81, on n'a pas suffisamment soutenu l'Europe de l'Ouest. Ce qui n'est pas faux.
Ce qui a modulé, parce que quand on parle de la réunification européenne, il faudrait bien s'entendre sur ce qu'était l'Europe avant. Enfin, il y a notamment, est-ce qu'on peut parler de réunification de l'Europe il n'y avait pas d'Europe avant. Il n'y avait pas d'Europe avant 39.
Il y avait des traités, il y avait des influences.
Il n'y avait pas d'Europe politique et institutionnelle. Donc là aussi, ce que je voudrais dire, c'est que bien sûr qu'ils utilisent cette pression psychologique. Pourquoi ? Parce que c'est celle qui est la plus immédiatement bankable, c'est-à-dire celle qui rapporte le plus immédiatement.
Pour avoir dit bankable sur Radio Courtoisie, Lucien Valdez, je vous signale que tenté de le faire au mois de juillet, pensant que les auditeurs sont naïvement en vacances, mais je vous signale que d'aucuns vous auront pris.
Vous citez déjà Alain Finkielkraut, alors maintenant vous utilisez les mots
qui sont quand même les pantins atlantistes. Ah bon, vous y veniez, très bien.
Mais ils utilisent ça. Et on peut voir que pendant toute la période des négociations à l'entrée de ces huit pays post-communistes, toute cette période-là, ben, l'argument de la dette morale a été mis en avant. Pourquoi ? A été prépondérant et a été utilisé comme une stratégie politique pour récupérer des compensations. Il y a des députés polonais, hein, et Geremek en est le premier, qui vont jusqu'à exiger une compensation plus importante de la part de l'Union européenne pour, tenez-vous bien, ce que la Pologne a fait à l'Europe en 1920. Figurez-vous qu'en 1920, parce qu'il y a stupeur bien sûr des négociateurs européens, en 1920, il s'agit tout simplement du rappel du rôle des Polonais dans l'arrêt de la progression de l'armée rouge à laquelle Lénine avait fixé comme objectif d'exporter la révolution bolchevique vers l'Ouest. Donc, moi j'aime bien cette phrase de... Parce qu'il y a aussi des humoristes en Pologne.
Si vous connaissez
l'histoire, oui. Non, mais oui, mais l'histoire en Pologne n'a pas été simplement une science sur le passé, mais une sorte d'addition que nous agitons sous le nez de l'Europe. S'agit-il d'une addition non payée ? Et je trouve que ça résume un petit peu l'état d'esprit.
Alors, les Polonais ne manquent pas d'air, et on est habitué à le voir, on l'a vu dans les dernières négociations, quoi qu'on en pense du traité européen, on a vu comment ils ont négocié et comment ils ont imposé leur vue à Bruxelles, mais en tout cas, l'arrêt de l'armée rouge devant Varsovie en 1920, nos auditeurs qui sont calés en histoire savent que si l'armée de Pilsudski a réussi ce prodige, c'est parce qu'elle était conseillée, dirigée, encadrée par une délégation française dirigée par le général Végan, et qui d'ailleurs a reçu moult décorations polonaises de l'époque. Mais bon, passons.
Je ne sais pas si les négociateurs européens...
Non, je pense que pour eux, l'histoire commence avec Jean Monnet, et donc... Forcément, c'est plus simple. Mais alors, est-ce qu'on peut pas... parce qu'il y a une autre piste que j'aimerais échanger avec vous, enfin sur laquelle on pourrait creuser, qui est... Est-ce qu'en fait, il n'y aurait pas, de la part des grands pays d'Europe de l'Ouest, et pour faire simple, tout le monde ne sera pas forcément d'accord, mais l'Allemagne, la France, l'Angleterre, une véritable difficulté à concevoir, à imaginer quelle pourrait être la mémoire de ces pays-là. Je m'explique. On sait très bien que l'Allemagne, depuis 1945 et sa destruction totale, on lui a bien appris qu'il fallait surtout pas qu'elle ait de mémoire de fierté nationale. Le cas de l'Allemagne est réglé. Le cas de l'Angleterre peut être aussi réglé sur la scène européenne, puisqu'on sait, on sait très bien que l'Angleterre ne s'est jamais pensée ni réalisée au travers d'une construction européenne. S'agissant de la France... ma foi, la France, avec l'arrogance parfois qu'on lui connaît, est-ce que la France peut être capable de se mettre un instant à la place d'une mémoire d'Europe centrale ou orientale ? C'est-à-dire que est-ce que la mémoire de la puissance, la mémoire des siècles d'or, la mémoire des grands legs artistiques, philosophiques de ces pays ou de ces civilisations, est-ce que c'est quelque chose qui peut être appréhendé par un Français ? Et est-ce que du coup, la souffrance réelle sur la mémoire éprouvée par ces peuples-là, est-ce que cette souffrance-là ne peut-elle pas passer pour un gadget ou quelque chose de totalement superflu aux yeux d'un Français d'aujourd'hui ?
En tout cas, on n'en prend pas le chemin, parce qu'on assiste là, la description, c'est une mémoire binaire. D'un côté les bons, d'un côté les méchants. Cette mémoire binaire sert en fait à l'édification d'un discours, et ce sera le discours finalement de l'Union européenne, qui va structurer l'ensemble des relations entre les États européens et leur façon d'appréhender leur avec les autres États. Il ne peut y avoir que des mémoires. Il ne peut pas y avoir une mémoire binaire.
Et pourtant, le français ou l'européen, en tout cas d'aujourd'hui, mais particulièrement le français, reste quand même toujours un peu tenaillé par sa prétention universaliste. Et donc, ça dessert forcément l'échange sur la mémoire.
Mais est-ce qu'on n'a pas aussi, par rapport à ces pays, puis vu le système en fait de l'Europe telle qu'elle existe, on a bien vu au moment où ces pays sont rentrés, où l'Allemagne a cru, et en fait, ça a été quand même une mauvaise blague pour elle avec le traité de Nice. Elle a cru que simplement, comme on l'avait fait pour l'Espagne ou le Portugal, une aide économique allait suffire simplement à faire rallier ces pays. Elle, et on l'a bien vu, parce que il est très marrant en ce moment de voir Angela Merkel dénoncer le traité de Nice, qu'elle avait quand même soutenu, et c'est elle qui avait quand même donné le plus de voix à ces pays de l'Est, pensant que l'Allemagne, par sa force économique, allait pouvoir en fait sortir ces pays de l'Est, qui allaient être à sa botte, quasiment, et n'ont pas très bien compris que pour ces pays, le seul sauveur qui a existé pendant cette période communiste, ça a été les Américains. Donc en fait, le système économique européen ne peut amener qu'à un échec, vu qu'on n'a strictement rien d'autre à leur proposer qu'un système libéral. Et la culture européenne n'existe pas, et le dialogue européen entre l'Est et l'Ouest n'existe pas.
Alors là-dessus, pour poursuivre ça, Lucien Valdés, vous n'avez pas résisté au plaisir de nous livrer une controverse entre Guibaud et Finkielkraut. Moi, je n'ai pas résisté au plaisir de vous lire un texte d'un monsieur qui s'appelle Jean-Louis Gouraud. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Jean-Louis Gouraud. Jean-Louis Gouraud est un hippologue. Donc, c'est un monsieur spécialiste du cheval, un hippologue. Il a été connu, donc il a écrit une centaine d'ouvrages.
C'est surtout un cavalier émérite.
Voilà, alors donc, je vois, vous connaissez, effectivement. Il a été connu du public pour la première fois parce qu'en 1986, il a fait un raid solitaire à cheval Paris-Moscou. 3333 km couverts en 75 jours avec deux trotteurs qu'il a offert à son arrivée à Gorbatchev. Et qui, pour la petite histoire, quand Eltsine a pris la place de Gorbatchev, il savait pas quoi faire des trotteurs, donc Eltsine les a renvoyés à Jean-Louis Gouraud. Et l'autre anecdote amusante de Gouraud, mais qui amusera moins les auditeurs de Radio Courtoisie, qui connaissent depuis longtemps les secrets dévoilés par les pamphlétaires de la droite nationale, c'est que Gouraud avait fait scandale puisque il avait révélé que le précieux étalon Akal Teke, qui était un cadeau d'État du président turkmène à Mitterrand, eh bien avait été remisé dans un centre équestre de la région parisienne où il servait pour le bon plaisir de leur clandestine, donc qui s'échinait à essayer de garder la ligne sur un bel Akal Teke. Et alors, le brave Gouraud, il a écrit un livre qui date de quelques années, je retrouverai l'année tout à l'heure, sur la Russie, où il faisait des hommes et des saints, et en préambule, en introduction de son livre, il décrit la mémoire russe. Et il décrit la relation que ce peuple a sur sa mémoire, sur son identité, et il livre un certain nombre de clés pour expliquer à un Français qu'on n'est pas prêt de saisir la mémoire russe, qu'il faut bien comprendre pourquoi ces gens-là sont bien attachés à la leur et qu'il serait vain d'imaginer que l'on pût un jour les rejoindre ou les fondre. Donc je vous lis ce texte, il sera un petit peu long, mais je vais lire vite, pas trop vite, mais je crois qu'il vient bien ponctuer le débat qu'on vient d'avoir. La fin de la guerre froide a été marquée par un phénomène de ce genre. Lorsqu'ils s'aperçurent que l'Union soviétique n'était qu'une grande puissance déglinguée et inoffensive, que la Russie n'était qu'un... pour affronter le danger, se mirent à en ricaner, à tourner son armée en dérision, à couvrir ses dirigeants ridicules, à insulter le géant affaibli. Voilà 10 ans que dure l'acharnement. Donc c'est écrit en... Je ne sais pas. En 2001. Voilà 10 ans que dure l'acharnement. On pourrait dire, ça fait 16 ans maintenant. Voilà 16 ans que dure l'acharnement. 10 ans qu'on ne s'intéresse à la Russie. Donc il faut rappeler que même en quittant de 14 de ces 15 républiques, elle reste avec ses 17 millions de kilomètres carrés près de 2 fois plus étendue que les 50 États américains réunis et vaste comme 30 fois la France. Donc qu'on s'intéresse à la Russie que pour parler de son délabrement matériel et moral, de l'effondrement de son économie, de la dissolution de ses mœurs, de la pollution de ses mers, de la voracité de ses entrepreneurs, de la corruption de sa police et de sa justice, de la légèreté de ses femmes, dont on veut bien admettre tout de même qu'elles sont les plus belles du monde, de la brutalité de son armée, ah tiens, elle existe encore, de la faculté de ses avions à se casser la gueule, de ses sous-marins à ne pas remonter à la surface, de ses centrales nucléaires à fuir, et puis quoi encore ? Encore pire, oui, pire peut-être que les insultes, la condescendance. Cette forme supérieure du mépris qui consiste à abreuver la Russie de bons conseils, de recommandations, d'orientations, de recettes sur l'art et la manière d'en sortir. Je ferme la citation, quand on voit, écrit en 2001, et quand on voit qu'aujourd'hui il n'y a pas un dirigeant de la planète qui n'aille pas pleurer son petit couplet sur les oligarques qui sont bafoués en Russie et les droits de la démocratie qui sont dangereusement mis à mal, on voit la clairvoyance de Jean-Louis Gouraud. Je continue la lecture. Depuis l'implosion du système communiste, trop souvent interprété comme une victoire du capitalisme ou comme une preuve de sa supériorité, les Occidentaux, en effet, à peine remis de la grande peur qu'ils leur avaient flanquée, ne cessent d'expliquer aux Russes ce qu'ils doivent faire et quand et comment pour accéder au paradis capitaliste version US, dont j'ai pour ma part le plus grand mal à me convaincre qu'ils puissent servir de modèle. Si l'on peut rendre un service aux Russes et à la Russie, il faut consister, à mon avis, à leur ficher la paix. Ils ont tout ce qu'il faut pour réussir sans nous, sans nos conseils et même sans nos dollars. Ils ont à la fois du pétrole et des idées, une population industrieuse, plus qu'industrielle, dure à la peine et bien formée, de riches espaces aux ressources quasi illimitées, quantité d'icônes miraculeuses, avec tout ça, qu'ils se débrouillent, laissons-les vivre leur vie et admettons une fois pour toutes qu'ils puissent choisir une autre voie que celle que leur indiquent nos journalistes, nos hommes politiques, les analystes boursiers, les économistes, les futurologues, les experts des FMI et autres incorrigibles donneurs de leçons. Tolérons qu'on puisse se faire une autre idée du bonheur que l'accumulation de biens, qu'on puisse avoir une autre vision du monde que la nôtre, une autre relation avec la nature et avec le bon Dieu. Supportons ces différences, encourageons-les, cultivons-les, il est indispensable à notre survie, celle de notre langue, de notre culture, bref de notre personnalité, que ce qui reste de l'Union soviétique échappe à la gloutonnerie américaine, à l'uniformisation de type Marlboro Cola et Mac Disney, ou, pour parler comme José Bové, au rouleau compresseur de la mondialisation anglo-capitaliste. De toute façon, il faudra se faire une raison, que cela nous plaise ou pas, la Russie n'empruntera pas les chemins sur lesquels on cherche à la mener. La Russie, nous prévient l'historienne d'art Olga Medvedkova, ne cédera pas un instant à la tentation de devenir un pays comme les autres. Voilà, j'étais un peu long et je m'en excuse aux oreilles des auditeurs, mais je crois que ça vient ponctuer effectivement l'échange que nous avons eu sur les différentes perceptions de mémoire. Lucien Valdès.
Jean-Louis Gouraud est également scénariste d'un très beau film qui s'appelle Serco et qui est disponible, je crois, en DVD. Sont les histoires de les aventures voilà, d'un jeune russe qui traverse comme ça du fleuve Amour jusqu'à Saint-Pétersbourg à cheval pour rencontrer son tsar et lui rendre hommage. C'est un très très beau film d'aventure à voir en famille et que je vous conseille et recommande.
Ouais, c'est un DVD qui est paru en 2005, parce que sur Radio Courtoisie, nous aimons bien donner les références ce que nous citons. Et donc ce film Serco, donc film de Joël Farge, édité en DVD en 2005, d'après le roman donc de Jean-Louis Gouraud dont vous avez parlé, qui a été édité lui aux éditions Le Rocher en 2006. Donc Serco, S-E-R-K-O.
Mais on pourrait dire que ce qui a été dit et ce que vous avez lu sur la Russie est vrai. On pourrait se demander que si l'Europe s'était simplement ouverte sur la Russie, je vais peut-être scandaliser certains, et pas s'ouvrir sur le reste des pays de l'Est, on aurait peut-être eu beaucoup moins de problèmes et créé une puissance européenne un peu plus importante que ce qui est en train de se mettre en place en ce moment.
Vous avez raison, je crois qu'il faut être malgré tout indulgent encore avec la France, puisque c'est avec l'Allemagne le pays qui résiste. J'avais préparé, puis notre émission passe tellement vite que je ne l'ai pas cité dans notre première demi-heure, mais il y a notamment un bras de fer tout à fait passionnant entre le Quai d'Orsay et les industries d'armement françaises sur le fait qu'il faille vendre ou pas du matériel militaire français à la Géorgie. En gros, l'industrie de l'armement évidemment dit oui, il faut leur vendre des trucs. Le Quai d'Orsay dit non, puisque ce serait interprété comme un casus belli, ou pas forcément un casus belli, mais en tout cas un coup de canif important dans la relation franco-russe. Et pour l'instant, la présidence de la République, dont le tropisme atlantiste, est pourtant avéré, pour l'instant, le président de la République tient bon et n'a pas donné les autorisations d'exporter du matériel militaire en Géorgie. Donc, on voit bien que l'établissement politico-diplomatique, comme dirait machin, français, résiste encore et se souvient qu'il y a des choses intelligentes et pertinentes à faire avec le partenariat russe. Lucien Valdès, un dernier mot sur votre sujet.
Oui, je me suis appuyé pour les recherches sur un livre un peu scientifique, mais qui est très intéressant, qui s'appelle « L'Europe et ses passés douloureux », qui a été écrit sous la direction de Georges Mink et Laure Neumayer, qui est édité aux éditions de La Découverte.
Voilà, on va le redire plus doucement, que nos auditeurs puissent noter.
« L'Europe et ses passés douloureux », sous la direction de Georges Mink et Laure Neumayer, aux éditions de La Découverte. Alors, je préviens, c'est un livre de recherche qui a été édité en coédition avec le CNRS. Donc c'est un peu ardu, mais il y a énormément d'informations. Non, il n'y a pas d'image.
C'est bien dommage. Juste pour répondre à un auditeur qui nous demandait les musiques de nos références, donc on va les donner. L'une des premières, c'était la musique du film de Das Boot qui passe. Je crois que la deuxième partie, ça doit être la musique du film Mishima, et qui a été composée par Philippe Glass. Et on termine normalement, je crois, par l'une des chansons de La Vie de Brian, des Monty Python.
Ouais, on en a une.
Et là, on doit avoir normalement un morceau de New Order.
Ah oui, c'est ça. Voilà.
Qui est un, donc on a
donc Patrick Puel, vous avez remarqué, il fait lui-même la transition pour la séquence qu'il anime.
Ah,
je
oui,
trouve que c'est très très.
On commence à devenir professionnel,
Patrick. Et donc justement, on va clore cette deuxième demi-heure. Merci Lucien Valdès, et on se retrouve dans quelques instants pour notre chronique culturelle. Bien, nous nous retrouvons, chers auditeurs, dans ces chroniques de la vieille Europe sur Radio Courtoisie, émission hébergée en deuxième partie du Libre Journal de Serge de Becquetch. Autour de la table, toujours, Lucien Valdez, Patrick PL et Philippe Christel, votre serviteur, pour animer donc, surtout vous, Patrick, cette troisième demi-heure culturelle. Qu'est-ce que vous nous avez rapporté ce mois-ci? Des choses sur les Anglais, j'imagine?
Quasiment pas. C'est marrant, hein.
C'est les vacances.
C'est peut-être parce que je vais partir en vacances que je risque d'en voir pas mal sur les plages françaises. Alors donc, en période de vacances, on va quand même donner un ou deux conseils de lecture pour pas passer des vacances complètement idiotes. Vous savez, c'est la tradition. Il y a plein de gens qui viennent avec plein de bouquins pendant les vacances. En règle générale, ils achètent un polar à la gare ou à l'aéroport.
Arrêtez, c'est ce qu'ils vont lire. Vendredi, j'ai stocké plein de livres.
Oui, mais c'est genre ce qu'on fait. Mais je suis le premier à le faire, hein, et on en lit quasiment pas. Donc, je vais donner simplement deux petits livres. Donc depuis le début de ces chroniques de la vieille Europe, je me suis forcé, parce que c'était quand même le thème de l'émission, à lire que des auteurs européens. C'était quand même le but. Et j'avoue que sincèrement, j'ai pris de plus en plus de plaisir, car avec la médiocrité de la littérature française du moment, hein, je serais bien embarrassé pour vous proposer chaque mois un ou deux livres de langue française, ou alors je ferais une critique assassine par pur plaisir, et franchement je n'ai ni le talent ni l'envie, comme le font ces superbes journaux de gauche comme le Nouvel Observateur, Télérama ou les Inrecuptibles. Donc on va commencer par un auteur italien. Je vous ai jamais parlé d'italien.
C'est vrai.
Ah, donc c'est Alberto Ungaro, dont les éditions, alors je vais essayer de pas écorcher parce que c'est pas évident, les éditions Anacharsis viennent de traduire La Taverne du Doge Lorendan. Alors comment vous dire, je vais essayer de peser mes mots, je pense qu'on est proche du petit bijou littéraire. C'est très bien écrit, ce qui devient rare à notre époque, et qui vous donne cette sensation de lecture, ce plaisir pur de lire. Alors l'histoire, c'est le héros de ce livre, qui s'appelle Schulz, qui est éditeur-typographe, qui vit à Venise dans un petit palais d'Ecati. J'aime bien le mot d'Ecati, je préfère un défraîchi. Non?
Vous avez, oui, hein, c'est
pas mal, ouais, ouais. Bon, je suis, c'est un peu pareil, quoi. Un palais d'Ecati. Donc, cet ancien marin, un personnage curieux, qui partage son palais avec un alter ego qu'il appelle Passo Doble, et avec un mannequin de femme très belle en cire. Alors, Passo Doble a l'habitude de cacher les objets dont Schulz a besoin au-dessus d'une vieille armoire, et c'est parmi ces objets qu'un jour il découvre un manuscrit ancien, relié et anonyme. Alors, ce texte qu'il découvre raconte les aventures d'un nommé Jacob Flint, au début du 19e siècle, entre Londres et Venise. Alors, Schulz lit ce récit, Passo Doble, son compagnon, au-dessus de son épaule. Il le commente et cherche à boucher les trous de la narration en faisant des hypothèses plus ou moins habile. Ce qui donne dans ce livre, et c'est l'originalité de ce livre, deux narrations qui sont montées en miroir, renvoyant l'une à l'autre. Donc certains éléments du récit peuvent discrètement migrer dans l'autre. Donc ça fait un jeu de virtuose qui, comme je vous le disais, est proche du bijou littéraire. Vous suivez, Philippe?
Bien sûr, je suis en train de feuilleter.
Donc je suis pas forcément clair, mais on pourrait croire qu'on s'y perd, mais Alberto Ungaro l'est pas.
Plus clair que sur les Belges.
Ah bon? C'est peut-être parce que j'apprécie peut-être plus l'Italie que la Belgique. Encore que j'ai quelques amis belges, mais c'est vrai que enfin bref, on va pas parler de ça, hein. Donc, pour une fois, faites-moi confiance, je fais souvent l'idiot, mais on n'est pas loin du très grand livre d'aventure. C'est un style, alors c'est bourré de références aux littéraires, surtout anglo-saxonnes, du 19e, et c'est peut-être l'un des grands écrivains européens. Alors Alberto Ungaro, c'est pas un inconnu total, il fut l'ami et un collaborateur très proche d'Hugo Pratt, et dont il écrira une biographie romanesque et quelques scénarios de ses BD. Donc je vous conseille vivement La Taverne de Doge Lorendan. C'est un peu fantastique. Dedans, par exemple, vous avez deux corbeaux qui parlent dans une taverne qui ressemble étrangement aux deux corbeaux d'Odin. Donc c'est rempli de petites références comme ça sur l'histoire et les mythologies. Donc voilà, je vous le conseille fortement, et je voudrais rendre un petit hommage à cet éditeur français qui s'appelle effectivement les éditions Anacharsis, qui est situé à Toulouse et qui traduit plein de grands textes européens. Alors j'ai trouvé par exemple chez eux Les Captifs des Tartares de Johannes Schlitberger. Alors, je connaissais pas du tout, et en fait, c'est un texte qui date de 1427, et qui est l'un des premiers textes d'un Bavarois, qui a été envoyé en Turquie, et qui raconte son récit en Asie. Et ce livre est quasiment aussi important que le livre de Marco Polo. Eh ben, ce livre de 1427 n'avait jamais été traduit en français. Donc je peux vous dire quand même qu'on a un peu de retard. On trouve aussi chez cet éditeur pas mal de sagas islandaises qui ont été traduites par l'éminent professeur Régis Boyer. Coup de chapeau pour ce petit éditeur toulousain.
Donc on va redonner les références du livre.
C'est
donc, la taverne du Doge Loredan de Alberto Ongaro, O-N-G-A-R-O, aux éditions donc Anacharsis, A-N-A-C-H-A-R-S-I-S.
Voilà, merci, donc pour... Et puis si vous avez la possibilité d'en lire un deuxième...
Allez-y. Hein,
c'est possible.
Je suis sûr que c'est possible.
Alors là, c'est du classique. On va remonter de l'Italie vers le nord. Et puis c'est le dernier Pasolini. Ça, c'est toujours très bon. C'est le bestial serviteur du pasteur Yksikönen qui vient juste de sortir. J'adore ces titres. C'est parfois quasiment du n'importe quoi, mais c'est extraordinaire. Alors certains verront peut-être encore la même histoire, car en règle générale, dans ces livres, on a toujours affaire à un héros où tout va mal et qui décide clairement de péter les plombs, soit en se vengeant sur ses contemporains, ou en quittant la société de consommation. Ben là, c'est pareil. Mais on va lui pardonner à Pasolini parce qu'il écrit bien et puis son humour féroce est un vrai délice. Alors cette fois-ci, c'est l'histoire d'un pasteur qui traverse une très mauvaise passe et son conseil paroissial qui le déteste décide de lui offrir pour son anniversaire un cadeau empoisonné, un ourson qui vient de perdre sa mère et spectaculairement morte par électrocution au sommet d'un pylône à haute tension. Il n'y a pas eu d'émeute juste après la mort de la mère. Hein. Le pasteur va s'attacher à l'ourson, il pousse la solitude jusqu'à lui construire une tanière dans laquelle il finit par le rejoindre, en compagnie d'une charmante biologiste, Sonia, qui était venue étudier les mœurs de l'animal. Alors c'est drôle, c'est émouvant et c'est féroce comme d'habitude. Donc le bestial serviteur du pasteur Yksikönen de Arto Pasilina aux éditions de Noël, ça reste toujours garanti.
Je confirme, je suis en train de le lire, c'est un véritable régal.
C'est un bijou, ouais. Ça, voilà. En ce moment, ouais, voilà, c'est des bijoux pour l'été, c'est extraordinaire. Hein.
Alors, juste, on a un message d'auditrice, là, je crois qu'il faut le prendre en compte. Une auditrice nous dit, les Belges vous écoutent, ne vous moquez pas d'eux, parce qu'on finira par ne plus vous écouter. Donc, je voudrais dire à notre auditrice que... si nous l'avons blessé, nous en sommes désolés, mais que ça fait partie de l'humour gaulois, peut-être de mauvais goût, mais qui consiste à se moquer de nos voisins qui a toutes nos frontières. Et puis surtout, c'est que nous, on a beaucoup de mal à trouver des Belges. On connaît des Wallons, des Flamands et des Bruxellois de langue française. Mais voilà, dans l'Europe,
nous respectons, mais nous avons de temps en temps une petite touche parfois d'humour, en sachant que sur la Belgique, une information intéressante. Le plus grand des Wallons était quand même Hergé, et on a appris quand même qu'en Angleterre, le Tintin au Congo maintenant est mis dans les librairies dans le rayon des adultes, et il est sous blister plastique parce que les Anglais ont considéré que ce deuxième tome des aventures de Tintin était un tome raciste. Donc là, nous soutenons totalement nos amis belges dans cette absurdité anglo-saxonne, comme d'habitude. Voilà cette petite parenthèse, on va peut-être aller au théâtre. Vous voulez aller au théâtre ? Alors, voilà la question. Quel est le plus grand dramaturge de tous les temps, mon cher Philippe ? Allez, vous avez quelques secondes, vous avez le droit, vous n'avez pas. On peut demander à Lucien Valdès, il a une réponse, il
Corneille.
En a.
Corneille.
Bon, je vous aide, il est européen.
Corneille.
Corneille.
Non, Racine. William Shakespeare.
Shakespeare.
Attendez.
Ah, oui, européen, vous avez dit.
Ah oui, mais Shakespeare fait partie des dramaturges européens.
Ah bon?
Oui, ça c'est... là-dessus, je n'en démordrai pas. Donc, si vous ne partez pas en vacances au mois d'août, alors là, je vous propose, ça c'est extraordinaire, c'est du 17 juin, ça a commencé au 17 juin, alors c'est jusqu'au au 9 mars 2008, donc vous n'aurez pas de quoi me dire, ah ben non, j'ai pas eu le temps. C'est le Théâtre du Nord-Ouest qui relève un défi sans précédent, qui va représenter en alternance les 34 pièces de William Shakespeare. Alors c'est un théâtre qui est formidable parce qu'en fait tous les jours ils vont jouer deux pièces différentes de Shakespeare dans deux salles différentes et pour 90 €, hein, tenez-vous bien, pour 90 € vous pourrez aller à toutes ces pièces jusqu'au 9 mars. y aller plusieurs fois. C'est une sorte de passeport qui, et donc ça va vous permettre, vous pouvez aussi les acheter à l'unité, c'est 20 € l'entrée. Et pendant ces 6 mois, vous allez pouvoir avoir la possibilité, aux dates que vous voulez, de voir les... Pardon ?
Je voulais dire simplement que c'était 20 €, donc.
C'est 20 €. Pourquoi je vous ai dit combien?
Non.
Bon. J'ai dû me tromper. Donc, si vous voulez aller voir, il y a une séance qui est à 19h et à 20h, c'est dans ces deux salles, le mercredi, le samedi et le dimanche. Et le week-end, c'est 4 spectacles qui se succèdent dans chaque salle. Il faut savoir que, pour les gens qui n'ont pas l'habitude avec le théâtre, l'alternance, la seule troupe qui fait l'alternance, c'est la Comédie Française, et les comédiens sont capables d'alterner 3-4 pièces. Donc là, vous avez une troupe qui va alterner sur 34 pièces différentes, et je peux vous assurer que c'est quand même compliqué. En plus, l'avantage du théâtre du Nord-Ouest, c'est que c'est une toute petite salle où vous êtes à peu près 50 de personnes, et que vous êtes au milieu de la salle, et pour avoir vu juste avant William Shakespeare l'intégrale de Monterland, je peux vous assurer que c'est formidable. Donc voilà, c'était mon côté théâtre. Et donc ça nous permet, alors je vous donne pas toutes les pièces entre Roméo et Juliette, Macbeth, Le Roi Lear, Hamlet, Othello, mais vous allez avoir des pièces comme Timon d'Athènes, que je ne connaissais pas, La Comédie des Erreurs, Les Deux Gentilshommes de Vérone, Peine d'Amour Perdu, Le Marchand de Venise, Richard III, Richard II, Henri VI, Henri V. Enfin là, c'est vraiment une performance de la part de cette troupe. Donc je vous conseille sincèrement, j'ai complètement oublié, mais alors ça c'est Théâtre du Nord-Ouest, c'est au 13 rue du Faubourg Montmartre, dans le 9e, en plein dans le quartier des théâtres, même si le quartier pas forcément terrible en ce moment, mais c'est quand même traditionnellement là où on va voir les spectacles.
Alors, pour changer, merci Patrick, pour changer un peu de sujet, je voudrais signaler à la rubrique des actualités qu'il y en a aussi qui ne chôment pas, comme beaucoup, c'est Polémia, qui vient de le site internet www.polémia.com, que nous citons souvent dans nos émissions, et qui vient d'adresser à ses abonnés sa lettre d'information été 2007, qui est, alors comme ils savent que je fais une lettre pour 2 mois, elle est particulièrement dense et particulièrement intéressante ce mois-ci. On pourra citer comme, donc il y a un éditorial signé de l'équipe de Polémia qui met en perspective le décalage entre une campagne présidentielle très marquée par une certaine libéralisation de la parole sur les 35 heures, sur l'excès des médias, sur le ministère de l'immigration et de l'identité nationale, et puis la partie inverse qui est, une fois l'élection passée, tranquillement, tout le monde revient à la vieille ancienne du conformisme. Un article très, très intéressant aussi sur une radiographie du gouvernement Fillon, parité homme-femme, oui, mais non parité des charges de famille. C'est-à-dire qu'en gros, on se rend compte que les hommes ministres sont des pères de familles nombreuses et les femmes ministres sont généralement des femmes sans enfants ou avec très peu. Et puis, un article assez intéressant pour ceux qui s'intéressent comme nous à l'Europe, qui est un portrait assez fouillé de Christophe Blocher. Christophe Blocher, c'est le patron de l'UDC en Suisse, donc c'est cet homme d'État suisse très à droite sur l'échiquier politique. Un papier intéressant également sur la tentative de déstabilisation du Venezuela par les Américains. Et puis, comme d'habitude, un certain nombre d'infos, de citations, de chiffres et d'articles avec, comme d'habitude, la chronique sociale et syndicale de Morvan Duhamel. Et également dans la partie dossier, cette fois-ci, Polémia aborde un sujet qui n'est pas souvent abordé, qui sont les différentes stratégies possibles pour les entreprises privées, industrielles, dans la mondialisation. Un papier assez décapant, visiblement rédigé par un responsable de cabinet de conseil aux grandes entreprises, et qui montre que tout n'est pas autant qu'on veut bien le dire de la délocalisation. Donc le papier est assez intéressant. Et puis vous trouverez également quelques chroniques littéraires, notamment une chronique sur l'édition posthume du camarade ADG, son bouquin J'ai déjà donné, édité chez je ne sais plus qui. Voilà. Donc je rappelle la lettre d'information de Polémia, www.polémia.com. Ça peut faire une bonne lecture électronique cette fois-ci pour l'été. Patrick.
Alors, à Ballard, vive la technique. On va parler un peu de photographie. Et cette phrase qui n'est pas la phrase d'un futuriste comme Marinetti, mais du photographe Alexandre Rodchenko. Et il est très marrant de voir que ce photographe de génie qui mettra son art au service du communisme n'est pas très loin de ce que pensaient les futuristes italiens qui étaient, eux, proches du fascisme. Alexandre Rodchenko était un artiste total, un peintre, un sculpteur, un graphiste, un designer, un décorateur de théâtre. Il a été le chef de file du constructivisme russe et puis de sa tendance plus radicale qu'on a appelé le productivisme. Et il y a une très belle expo qui est en train de c'est en ce moment. Attendez, voilà. Oui, je me suis un peu mélangé dans mes fiches. Donc, vous avez une exposition Rodchenko photographe, la révolution dans l'œil, au musée d'art moderne de la ville de Paris, au 11 avenue du président Wilson. Cet avant-gardiste qui a voulu créer avec des nouveaux moyens d'expression, il a jeté aux orties la peinture alors qu'il était peintre, il avait décidé que la peinture était périmée et dès les années 20. Donc il a décidé de se mettre à la photo et pour mieux coller à la ligne officielle du parti, en 33, il signe un reportage sur la construction du fameux canal pharaonique en Carélie qui coûtera la vie à des milliers d'hommes, il faut quand même le dire, mais ce photographe qui ne pouvait l'ignorer, surtout ignorer la condition de vie des prisonniers, vu qu'il est photographié, a fait plus de 3000 photographies à la gloire de cette folle entreprise. Alors certaines critiques de l'exposition, c'est toujours pareil, vous avez une exposition d'un artiste, il y a toujours quelques critiques.
Mais c'est la démocratie.
C'est la démocratie. Oui. Reproche de ne pas avoir mis le contexte politique de ces photos. Alors de mon côté, moi j'avoue que je m'en fous totalement, un artiste est en dehors de l'histoire, on ne s'inquiète pas dans quelles conditions le Parthénon a été construit, combien d'esclaves sont morts, l'œuvre reste et c'est le principal. Arnaud Brecker était un grand artiste, il était pourtant proche du pouvoir nazi, Rodchenko était un grand artiste, il était pourtant proche du pouvoir communiste. Voici la seule chose importante, pour le reste, laissons les historiens faire leur travail, l'art européen doit être jugé pour son esthétisme, mais... et sa beauté, un point c'est tout. Donc je vous redonne cette magnifique exposition de photos. Rodchenko photographe, la révolution dans l'œil au musée d'art moderne de la ville de Paris.
Merci Patrick, on va faire deux petites précisions. La première, c'est parce que là, il y a une émeute sur le standard, mais les auditeurs ont raison, c'est que... Et en plus, qui incrimine notre ami Lucien Valdez, à qui il est reproché d'avoir dit que la Russie était plus grand que les USA sur le plan de la géographie. Alors, plusieurs messages d'auditeurs, donc pour dire, un, c'est pas Lucien Valdez qui l'a dit, c'est Jean-Louis Gouraud qui l'a dit, dans la citation que j'ai faite tout à l'heure, et Jean-Louis Gouraud disant, il faut rappeler que avec 17 millions de kilomètres carrés, la Russie reste près de deux fois plus étendue que les 50 États américains réunis et vaste comme 30 fois la France. Alors on n'a pas pris notre calculette pour vérifier si c'était vrai,
mais on peut
les auditeurs
confiance.
L'ont certainement fait, et s'ils disent que c'est une erreur, c'est donc eux qui ont raison, chacun ira sur son quid et sur sa calculette, mais en tout cas, le responsable n'est pas notre Lucien Valdez national, mais bien Jean-Louis Gouraud qui
s'y connaît, puisque
pourtant, je connais, puisqu'il a fait une bonne partie, mais bon, voilà
exactement.
Peut-être
qu'il y a une erreur, hein, on n'est pas...
Mais voilà, donc ça, les auditeurs auront été entendus. Et puis Patrick, il faudrait que vous reprécisiez les références du livre de cette aventure entre notre ours et notre biologiste.
Alors, il n'y a pas de problème, je vais vous trouver ça
voilà.
Tout de suite dans mes petites fiches. Tout de suite.
Alors, le temps que vous retrouviez
voilà.
Ça...
C'est le bestial serviteur du pasteur Uxkonen. Excusez-moi, mais je parle peu les langues du Nord. De toute façon, je parle aucune langue. Comme ça, au moins, les auditeurs le savent.
Les méchants diront même le français.
Oui, Arto Pasilina, c'est aux éditions de Noël.
Doucement, le bestial serviteur du pasteur Uxkonen, chez... De Noël.
Vous dites bien, vous, les langues étrangères. Hein.
Oui, c'est comme ça. Alors, bon. Je voulais signaler, je vais parler de Jean-Louis Gouraud, en fait, je suis tombé sur lui, puisqu'il y a un article sur ses œuvres, dans la dernière livraison de la Nouvelle Revue d'Histoire. Donc là aussi, un numéro très dense pour couvrir la période juillet-août 2007. Ça aussi, ça fait partie des revues qu'il faut absolument acheter quand on a un trajet en avion, en TGV ou en je ne sais quoi.
Il faut même être abonné.
Idéalement, c'est encore mieux de s'abonner. Et d'autant plus que le dossier de ce mois-ci est centré sur le Japon des samouraïs, avec là aussi une radioscopie de cette société japonaise qui est tout à fait passionnante, avec comme souvent sur les sujets géopolitiques, le dernier article qui est signé d'Emeric Choprade, le choix du Japon entre Chine et Amérique, c'est assez surprenant. Là aussi, il y a probablement des pesanteurs géopolitiques immortels qui vont se réveiller et peut-être des surprises. Enfin, c'est assez passionnant. C'est assez passionnant. Il y a également un, c'est assez inattendu dans la revue, mais il y a également trois pages. Quatre pages d'ailleurs sur le qui s'intitule Réflexion sur une élection, donc signé Antoine Baudouin, et la revue nous indique que c'est le nom de plume d'un journaliste qui a longtemps dirigé le service politique d'un quotidien parisien. Et donc il y a quatre pages d'Antoine Baudouin sur Réflexion sur une élection. La victoire de Sarkozy, la défaite de Le Pen. C'est assez intéressant.
Et on comprend pas pourquoi il y a le portrait de Vladimir Poutine d'ailleurs.
Mais si, parce que vous avez pas lu. Mais moi j'ai lu, je comprends très bien. C'est surprenant, je vous l'avoue, puisqu'entre Sarkozy et Le Pen, on s'attendait pas à trouver, on s'est dit, il y aura peut-être un type sérieux quand même. Eh ben oui, on a mis le président Poutine. Tout simplement pour mentionner que, quand on est chef d'État d'une politique nationale indépendante et assumée comme telle, on devient immédiatement la cible des États-Unis. Et c'est probablement cela qu'a voulu dire Antoine Baudouin.
Donc c'est pas vous, Philippe Christel, qui faites l'iconographie à la nouvelle revue d'histoire.
Je ne fais ni icono,
qui pourraient penser que. En parlant de Vladimir Poutine, vous savez
oui,
que
on n'en parle pas assez
et on va en parler en 2009 et en 2010 parce que vous savez, mon cher Philippe, que ça va être l'année de la France en Russie en 2009 et l'année de la Russie en France en 2010. Vous ne saviez pas ça. Et donc voilà, ça c'est le genre de grands événements. Alors, il faut toujours mettre un bémol parce que souvent il y a, par exemple, il va y avoir une exposition Marc Chagall. Franchement, sincèrement, c'est pas quelque chose
Marc
qui m'intéresse.
Chagall, c'est au nom de la France ou au nom de la Russie?
Ça va être un peu les deux.
Oui, non, d'accord.
Ça va être un peu les deux, malheureusement. Mais autrement, ça peut commencer bien parce qu'il va avoir une exposition à partir du 20 octobre, 2007, à la Maison Rouge à Paris, la Fondation Antoine de Gabert, une exposition So Arts qui s'appelle Art politique en Russie de 1972 à aujourd'hui. Là, j'ai pas grand-chose à vous dire parce que je connaissais pas le So Arts. Ça va retracer cette partie de l'art russe à partir des années 70, qui règne du réalisme socialisme et qui s'affirme comme le premier mouvement original en Russie depuis les avant-gardistes des années 20. Donc, c'est la première fois qu'une collection de ce mouvement sera présentée en Occident. Donc, c'est à découvrir à partir du 20 octobre à la Maison Rouge, Fondation Antoine de Galbert. Voilà.
Merci. Alors, une dernière fois, et puis Patrick, vous arrêterez de trouver des noms aussi compliqués. Une auditrice, cette fois-ci, nous demande de rappeler le titre du livre de Pasilina. Donc, le titre est le suivant. Le bestial serviteur du pasteur Huskonen. Huskonen. Voilà, c'est de la littérature finlandaise ou finnoise.
Et c'est aux éditions de Noël.
C'est aux éditions de Noël, ça tout le monde connaît. Et le nom de l'auteur, c'est Arto Pasilina, donc P-2-A-S-I-L-I-2-N-A. Lucien Valdez, vous aussi, vous êtes venu avec votre revue que vous avez trouvée en kiosque. De laquelle allez-nous vous parler ?
Du choc du mois. Du choc du mois,
c'est original.
14, c'est pour le mois de juillet aussi, juillet-août. Il y a un entretien tout à fait curieux, tout à fait intéressant. Un entretien avec le chanteur Renaud, qui a accordé une interview donc au journaliste du choc du mois. Et je ne résiste pas à vous donner la dernière question du journaliste. Voilà. Et il indique, voilà, c'est fini, juste une dernière question. Est-ce que vous avez conscience qu'en accordant cet entretien au choc du mois, c'est la première fois de votre carrière que vous prenez un véritable risque politique ? Et réponse de Renaud, une réponse que je trouve tout à fait élégante. Et il dit, se faire des amis est une préoccupation d'épicier, se faire des ennemis est un luxe d'aristocrate. Je trouve que dans la bouche...
C'est une phrase de Monterle
dans la bouche de Renaud, c'est... voilà.
Renaud citant Monterland, on voit qu'il a passé la cinquantaine là.
Oui, on voit qu'il a passé la crise de la cinquantaine, absolument.
Et puis, je vous recommande aussi un entretien avec Philippe Bilger, toujours dans le, qui est l'avocat général.
Qui est en retraite maintenant, je crois.
Pas encore.
C'est notamment l'avocat général qui avait requis à l'encontre de Maxime Brunnery et qui avait eu un réquisitoire assez astucieux.
Mais je vous ai coupé, vous allez dire autre chose.
Non, et donc c'est un numéro qui a une très bonne tenue et que je vous recommande.
Et donc là pareil, le choc du mois en kiosque, mais là aussi le mieux c'est encore de s'abonner, comme c'est marqué en gros sur la quatrième de couverture. Merci Patrick, merci Lucien. Pour ces trois demi-heures passées ensemble sur Radio Courtoisie, je rappelle à tous nos auditeurs que, j'indique à tous nos auditeurs que notre prochain rendez-vous aura lieu le 22 août sur cette antenne, et donc cette fois-ci ce sera avec l'équipe, non pas l'équipe de nuit, mais l'équipe du mois d'août. Et puis je tenais à remercier particulièrement aujourd'hui les fans qui se sont glissés dans le studio pour nous accompagner. Donc voilà, merci à vous mesdames d'être avec nous. Bonne soirée à tous les auditeurs. Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur notre site internet radiocourtoisie.net. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Bekech, dirigé successivement par Bernard Anthony et Philippe Christel, diffusé en direct mercredi 25 juillet 2007 de 18h à 21h, en différé jeudi 26 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal a été réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez les cassettes correspondantes aux 3 heures de l'émission pour le prix franco de port de 20 euros ou 15 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris. Pour la gloire et la...